C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. 32e journée qui se poursuit ce soir. Lyon s'impose à Lille. 4 buts à 3. Lille menait 3 à 2 à la 85e minute. On pensait que Lille avait fait le plus dur. Et bien non, ce Lyon est renversant. 2 buts dans les dernières minutes de la rencontre. Et Lyon fait la très très bonne opération au classement puisque Lyon est désormais 7e. Pour en parler ce soir, le président de l'équipe du soir est dans la place. Bonsoir Didier Roustan.
Bonsoir, quel match.
Fantastique. Oh. Dans votre ville peuple, le marquis, pas de Sade, mais non, le marquis de l'équipe du soir, Yvan Lemay, bonsoir Yvan.
Bonsoir à tous, bonsoir Lemay.
Ce Lyon-là est-il extraordinaire? On en débattra, on réagira sur ce qu'on vient de vivre ce soir. Évidemment, le marquis aura, participera évidemment au débat. Le proverbe est extra, mais la mauvaise caméra, c'est le docteur Love qui est dans la place. Bonsoir docteur.
C'est au moment de payer les pots qu'on sent qu'on a plus soif, dit un vieux proverbe lyonnais. Que nenni, mes amis. Ce soir, ce sont les Lillois qui payent les pots cassés. Bonjour.
Pas mal ce proverbe de dernière minute, Didier, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Chapeau bas, le romancier, très beau.
La hyène de l'équipe du soir a changé de côté. Côté gauche.
Ah oui, du plateau alors là, de l'équipe du soir. Je suis dérouté, là.
Etienne, ça va? Pas trop perturbé?
Est-ce qu'il sera aussi méchant?
Hein? Moi, je suis bon partout.
Ah, vous êtes bon partout, ouais. Ok. C'est un homme qui ne doute pas. Et puis, le commissaire Valentin est toujours dans la place. Bonsoir, Guillaume Dufy.
Il est bon partout. Je l'ai vu jouer au foot, il n'est pas bon partout.
Oh, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
C'est un attaquant, non? T'as attaquant
ouais,
de côté,
c'est
là.
Un joueur de couloir.
Genre de...
Pas après ton début de contre ta mine.
Ouais. Ok.
Olivier c'est Olivier Rouillet du 21e siècle.
Tanguy Le Sévillier est là pour les infos, pour les images. Ce soir, Lyon s'impose contre Lille. À Lille, ouais. 4-3, 7 buts en 30 secondes chrono. Tanguy, ne parlez pas, prenez votre souffle. C'est maintenant, c'est à vous de jouer.
4 secondes.
Les Lillois avaient bien démarré cette partie fantastique avec Bafodé Diakité, auteur de l'ouverture du score sur son centre de Yazici, ce coup franc de Yazici. Les Lillois vont inscrire un deuxième but grâce à Zegrova, entré en jeu peu de temps avant. Derrière, les Lyonnais vont revenir. D'abord par Benrahma, bien servi par Lacazette. Pas de hors-jeu sur ce but-là. Égalisation derrière par Malik Fofana.
Diakité,
il va de son doublé. Et puis en fin de match, tout va basculer avec d'abord Lacazette, son 17e but de la saison. Et puis Mama Baldé qui offre la victoire aux Lyonnais. Du coup, eh bien, les Lillois sont 4e de Ligue 1 à un point de Brest. Les Lyonnais sont 7e.
Oui, on verra le classement évidemment parce que ça a beaucoup changé. Donc nos assistants sont complètement perturbés au niveau de la charte graphique. Ce Lyon-là est-il extraordinaire, habillage à la lyonnaise? Et on y va, mes petits, on y va. Étienne, ce Lyon-là est-il extraordinaire? Oui ou non?
Étienne, comme j'ai pas le sens de la mesure comme le sens de la question, je réponds oui, évidemment.
Oui, ok. Guillaume?
Sur ce match, oui.
Oui. Monsieur Lemay?
Oui, ce soir.
Oui, ce soir. Bernard Lyons?
Extraordinairement déconcertant.
Mmh. Oui, d'accord. Donc c'est un oui.
Contrat.
Oui, contrat.
Oui,
contrat. Ok, très bien. Président, vous opposez à votre ville peuple ou vous les accompagnez?
Ah non, non, pas du tout. Ils sont surtout déroutants, quoi, parce que ils font y a des fins de match ou des deuxièmes parties de matchs incroyables. Souvenons-nous quand ils mènent, c'est pas la même hauteur, non? Quand ils sont menés 3-1 chez eux contre Brest, tu vois, ils ont la tête dans le seau.
Ils se regardent parler.
Je me souviens, l'écran est en face.
Excuse-moi.
Je suis un homme de télé, toi tu es un homme de couloir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Allez-y.
Contre Toulouse, la première mi-temps, ils sont à la rue. Parce que là, contre Lille, ils sont très mauvais en première mi-temps. Et puis après, en 20 minutes, ils règlent l'affaire avec Cherki Fofana. C'est vrai qu'il fait chaque fois des changements opportuns, Pierre Sage. Et c'est l'équipe, à ma connaissance, je crois qu'ils avaient récupéré 21 points après avoir été menés. C'était le record, donc ça fait 24.
Et ça fait 24
donc,
points après avoir été menés.
Ils sont alors extraordinaires, je ne sais pas si c'est le mot, mais ouais, ils sont déroutants, ils sont incroyables.
Ils sont aussi extraordinaires de médiocrité et de nullité en première période.
De nullité?
Non, franchement, ils ont été nuls. Franchement,
je ne sais pas jusque-là.
Moi, je trouve qu'en première période,
terribles.
Ça a été le néant total, quoi, absolu.
Ils n'étaient pas bons, il y a des possibilités. Ils étaient maladroits parce que Noama et Benrahma sur les côtés quand ils centrent, c'est incroyable.
Bah oui,
il faudrait que Mata, tu vois, leur donne des cours parce que lui, chaque fois, il te met dans la bonne zone. Tu as une tête de Lacazette relativement facile où il peut un peu réduire la marque. Mais c'est vrai qu'ils y sont pas, quoi. Ils sont un peu chloroformés. Et puis d'un coup, il y a quelque chose.
Ils font quand même une première période à zéro tir cadré. Ouais. Puis au moment, ils ont une bonne situation.
C'est les équipes qui font un match à zéro tir cadré.
Non,
mais ils ont des balles d'attaque, quoi, si tu veux.
Le contraste est quand même saisissant entre la première et la seconde période.
Oui, dans l'efficacité. Aussi.
Moi, je suis pas, peut-être pas aussi excessif que Guillaume.
Oui, pas excessif. Voilà, c'est ça. Non, ils sont pas bons.
Ils n'ont pas été bons.
Non. À Montpellier, pareil.
Ils sont pas bons.
La première mi-temps à Montpellier, ils sont hors champ. Montpellier a une balle de 2-0. Et puis après, tu as une frappe de loin de Cacré. Et puis non, Lacazette qui les relance, une faute de... Mais ils gagnent Montpellier. Tu vois, chaque fois, en fait, ça peut donner des idées au loto. Ils sont habités par quelque chose.
C'est comme les Mercuriens. C'est quand même pas si courant que ça dans une saison de faire une remontée au classement.
Déjà, j'ai
pas
ça
les statistiques en tête. C'est exceptionnel. Et de le faire avec un talent... Et avec des remontées aussi à l'intérieur des matchs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne peut plus rien leur arriver et qu'ils sont portés par quelque chose, un enthousiasme, un truc, un entraîneur qui fait toujours le bon choix, même si je ne suis pas persuadé qu'à chaque fois il en soit persuadé lui-même. Mais en tout cas, il se passe quelque chose dans cette équipe.
Lorsque Pierre Sage a pris l'équipe sur le deuxième match, la défaite, donc on va dire à domicile contre l'Olympique de Marseille, les Lyonnais étaient 18e, ils sont aujourd'hui, après 32 journées, ils sont 7e.
Non, mais c'est pas la même équipe.
Mais c'est notre équipe, hein.
Non, mais je m'excuse, mais.
C'est notre saison.
Il faut avoir raison garder, c'est pas la même équipe. Je suis d'accord avec, avec Étienne.
Le mercato de janvier,
oh, bah, oui, ils ont quand même mis 57 millions d'euros.
57.
Oui. Il y avait des pourboires.
Ceux qui devaient mettre. Au départ, alors ils ont eu l'interdiction de recruter. Non, mais évidemment, c'est pas les mêmes joueurs.
On juge pas la même équipe.
Oui,
c'est
oui.
pas un changement d'entraîneur qui a modifié l'équipe. Oui. C'est justement les.
Ah non, le changement d'entraîneur, il a considérablement modifié
même,
l'équipe. Parce que à l'arrivée, ceux qui font la grosse différence, c'est pas tous les joueurs. C'est Matic, ok. Par exemple, Baldé. Il a transformé Baldé. Baldé, il n'est pas arrivé au mercato d'hiver. Donc, il a une part de responsabilité. C'est vrai qu'il a plus de matos que quand il est arrivé. Quand il arrive, je crois que c'est en décembre. Ils ont 7 points. Ah, ils vont gagner à Monaco, quand même. Grosso, même scénario à Monaco.
Grosso, il avait Lacazette, je crois, déjà, non?
Non, mais après, Grosso, oui. ça s'est pas bien passé. Oui, et puis, avant Grosso, il y avait Blanc. Attends. Mais quand ils vont gagner à Monaco, c'était le même topo. Et ça, c'était en décembre, où tu sens qu'ils vont m'en prendre, ils sont menés.
Tu sens qu'est-ce que je veux dire, tu débutes le championnat. Pas comme tu débutes l'année, tu
dis ah non.
T'as Lopez qui est blessé, t'avais Lovren qui est blessé.
Non, ils ont une équipe supérieure.
De blessé, t'avais Lacazette de blessé. Donc tu
ils ont une équipe supérieure.
Un retard. Bah, ils ont fait un recrutement, mais j'ai pas le souvenir que quand ils font ce recrutement-là, tout le monde se dit, bah c'est sûr, ils vont terminer européen.
Au contraire, moi j'ai entendu des gens, beaucoup de gens qui disent.
Donc le mérite, il est là quand même.
Tu peux être sceptique quand t'as 8 nouveaux joueurs qui débarquent en janvier. Ils connaissent pas forcément la Ligue 1. Il peut y avoir un temps d'adaptation, mais en janvier normalement.
On peut aller voir Timothée Ménon, notre envoyé spécial du côté du stade Pierre-Mauroy. Ce soir, Lille, à 85e minute, était 3e du championnat, venait de doubler Brest au championnat après 32 journées. Au coup de sifflet final, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose, une ambiance à décrire du côté du stade Pierre-Mauroy?
Il y a une énorme ambiance dans la salle de presse d'ailleurs.
Non, les mecs étaient KO, ils doivent être KO, nos amis lillois, non?
Non, mais il y a une chose qui est certaine, une expression qui est devenue impensive, que je n'aime pas beaucoup, mais c'est la réalité. C'est que ce stade Pierre-Mauroy a été littéralement climatisé parce qu'il y avait une ambiance extraordinaire. Il y avait quasiment 47 000 spectateurs qui étaient présents aujourd'hui dans le stade Pierre-Mauroy. Il y avait une ambiance de folie dès la mi-temps, forcément, avec cet avantage. Et puis, la rencontre a basculé dans l'irrationnel. Je pense que Lyon a vu une petite brèche, une minuscule petite brèche, et s'est engouffré dedans pour justement faire basculer cette rencontre dans l'irrationnel. Résultat, un stade Pierre-Mauroy complètement abattu, des joueurs extrêmement abattus également. En revanche, un clan lyonnais à la fête et le parquage lyonnais qui était bien rempli pour un lundi soir, il faut quand même le signaler, qui était évidemment en fusion complète.
Et la gestion du banc et de banc de Paulo Fonseca, il faut dire que ce soir, donc, il a perdu deux joueurs prématurément sur blessure. 26e minute, il y a JTC. Et puis Gudmundsson à la 58e minute. Mais après, donc, il nous fait ressortir Zegrova.
Il avait fait rentrer. C'est rare.
Ouais,
qu'il avait fait rentrer. Je pense qu'il a peur de le perdre sur blessure,
oui,
non?
Il marque.
Enfin, je sais pas, mais c'est étonnant. Ouais, quand même.
En faisant ça, tu peux le perdre tout court, parce que franchement, c'est assez humiliant pour un joueur. Il ressort presque à 20 minutes de la fin, alors qu'il est rentré en jeu, qui marque un but splendide. qu'il a été nominé dans les 5 meilleurs joueurs du championnat, enfin, franchement, il peut faire la gueule, mais il n'avait même pas l'air de tant faire la gueule que ça.
Non, mais c'est, voilà, c'est Zegrova qui sort à la 74e minute. Et Alexandro entre, donc il rajoute un défenseur. Le message qui passe.
C'est un signe aussi que tu envoies.
Là, il y a deux.
Il a été fautif.
C'est un signe que tu envoies à l'autre équipe en disant je mets un défenseur, c'est parce que je vous crains et vos changements peuvent faire la différence. C'est vrai que souvent, on dit quand un entraîneur fait rentrer ou choisit une solution défensive, ça dégage pas énormément de sérénité quand même.
Mais souvent, s'il se fait remonter et qu'il fait pas ça, on lui reproche de dire il aurait dû fermer ou des choses comme ça.
Mais ça, franchement, c'est un signe que t'envoies.
Fermé, il a commencé à le faire à 2-0. Toute la deuxième mi-temps, il a fermé. Donc c'est aussi ça qui relance un peu Lyon quand même. C'est-à-dire qu'ils abandonnent le ballon, d'un coup ils jouent plus, ils abandonnent tout. Franchement, la deuxième mi-temps de Lille est très très pauvre.
Ça réagit du côté de Lille avec notre envoyé spécial Timothée Mémon sur ce coaching. Est-ce que vous avez un commentaire à nous faire?
Ouais, non, simplement, au moment où il décide de sortir Zegrova pour faire rentrer Ribeiro, on s'est plutôt regardé les uns les autres en tribune de presse. Il y avait aussi de la circonception. Ça va pas marcher. Les gens étaient circonspects en tribune, je m'excuse. En tout cas, c'était très curieux. Et on voit tout d'un coup que Ribeiro rentre et que c'est une catastrophe. Alessandro rentre donc et c'est une catastrophe. Il est impliqué sur les buts. Ça déstabilise finalement la défense de cette équipe du LOSC. On enlève le joueur qui peut faire la différence. On peut imaginer évidemment que Lille a besoin d'attaquer, que Lille va peut-être pouvoir jouer des contres et ils enlèvent Zegrova. Bref, c'est assez incompréhensible. De la même façon que faire rentrer un défenseur central à la place d'un attaquant, c'est des choses pas extrêmement modernes comme me le soufflait Sébastien Boy il y a un instant. Inversement, et c'est là où je parlais d'irrationnel, quand on voit le coaching de Pierre Sage, quand on voit Mama Baldé rentrer, faire une passe décisive, marquer un but, quand on voit la saison de Mama Baldé, l'aventure de Baldé avec l'OL, ça, y a des moments où le football est inexplicable.
Enfin, Timothée, on a un peu moins bien vu que toi à la télévision, mais il a changé de système, c'est pour ça qu'il a sorti Zegrova. Il est passé une défense à 5, non ?
Ah ben, s'il fait rentrer le défenseur central, oui, c'est clair que... C'est... Ben, oui, bien sûr.
Il a pris une option tactique, il a essayé de coacher tactiquement son équipe, Fonseca, et il s'est planté dans les grandes largeurs. Mm. Et c'est pas dans sa philosophie.
C'est rare qu'il se trompe, surtout.
Mais c'est pas dans sa philosophie, c'est ça que je retiens de cette période.
Et au final, c'est Pierre Sage qui a fait une bonne lecture de la situation, qui a fait du bon coaching. Fonseca, il n'a pas trop habitué à ça. Et Pierre Sage, à chaque fois, forcé de constater qu'il est bon sur son coaching.
Ah oui,
malgré son manque d'expérience, que ce n'est pas un aim, il est bon. Il arrive à transformer les joueurs parce que Mama Baldé, il part de loin. Et il te fait gagner le match.
Bien sûr.
Donc, bravo à lui.
Et manifestement...
Assez surpris de la gestion de Lille de ce match. Parce qu'à 2-0, où tu gardes le même schéma ou pas, mais la situation dans laquelle ils étaient, ils se sont fait mal tout seuls.
Peut-être qu'ils sentaient aussi, parce qu'à ce moment-là, tu as la casette, Baldé... Et sur un côté, mais c'est un joueur qui est à l'aise dans l'axe. Tu as Cherki, du coup, qui est un peu en 10 à un moment. Ça fait beaucoup de joueurs dans l'axe. Benjamin André manque énormément parce que son expérience, tu vois, sur ces moments-là...
Son agressivité aussi. Doute, hein.
Son agressivité aussi, son sens du jeu, tactique ou des choses comme ça. Et il a dû sentir qu'il est... Les deux et devant étaient un petit peu trop légers, enfin devant la défense, et il s'est rassuré avec ça. Mais...
Et finalement, c'est une victoire offerte par Lille, alors ?
Non, pas vraiment. Ça fait partie de l'histoire du storyboard.
C'est incroyable parce que Lille passe à côté de sa deuxième période, mais réussit malgré tout sur un nouveau coup de pied arrêté à repasser devant à 3-2.
85e.
Là, tu dis à 85e, ouais. C'est bon, 3-2, les Lyonnais sont fort, à sommet.
C'est là où c'est fort.
C'est cette deuxième remontada qui est plus forte encore que la première.
Une super mauvaise soirée pour Lille, pour Fonseca, pour ses joueurs.
Pour le classement,
deux garçons sur blessure à deux journées de la fin. Moi, je pensais que ce soir, c'était l'occasion pour eux de s'installer sur la troisième place et de plus la lâcher. Là, très franchement, à Brest, ils doivent sourire.
Le calendrier de Lille, ça sera Nantes-Lille la prochaine journée.
Lille-Nice,
la dernière journée.
Et vous pouvez rappeler les deux dernières journées de Brest aussi, peut-être?
Le dernier jeu de Brest, je ne les ai pas. Mais...
Reims et Toulouse.
Ouais, Reims et Toulouse, c'est voilà. Bien. Merci beaucoup. Aidez-moi.
Je peux briller, vous aider, ça me fait plaisir.
Monsieur Calendrier.
J'ai vu le match de Brest, ils sont fatigués.
Ah oui, très.
J'espère pour eux que les deux blessés vont reprendre rapidement. Parce que c'est
il y a des inquiétudes sur l'Esmelou pour la important. Prochaine journée, je crois.
Oui, l'Esmelou Castillo. Ouais.
Il y a peut-être quelque chose qui joue en coulisses sur l'avenir de Fonseca. Imaginons donc à un moment Lille était troisième, donc assuré d'une place en Ligue des Champions. Là, ils sont quatrième, donc c'est cette fameuse place là où tu as accès au...
La place qui change tout.
Oui, au truc de barrage, donc un coup tiré, enfin en général...
Que les clubs français détestent.
Et il est dragué par l'OM. Et le Fonseca est dragué par
l'AC Milan.
Et là, c'est Milan.
Qu'est-ce que tu penses à quoi, là, derrière ça?
Parce que... Non, mais est-ce que ça, c'est...
Un club ami.
Est-ce que ce soir, il y a un truc peut-être qui se sera joué, quoi.
C'est voilà. Timothée hier.
Lille, s'ils sont troisième,
oui, assurés en Ligue des Champions. Il n'y a pas de relation, il y a deux causes à effet.
Ah, bah, une qualification directe en Ligue des Champions, une qualification
directe. Je suis d'accord, mais tu ne penses pas à des choses un peu plus.
Tordues. Bon, c'est pas le genre, Didier.
Non, mais pour moi, est-ce que.
Non, mais est-ce que la carrière de Fonseca, donc, a tourné ce soir? C'est-à-dire qu'en fait, il avait la hype, maintenant il est.
Non, c'est pas ça.
Il l'a plus.
Olivier pense qu'il y a plus de chances
qu'il reste.
Le dirigeant lillois de conserver Fonseca s'il termine champion. Troisième et qu'ils ne sont pas obligés de passer
par cette. J'ai l'impression que la carrière de Fonseca. J'ai l'impression que la carrière de Fonseca, elle ne dépend pas spécialement de ça. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui est demandé, même si Yvan pense le contraire. Il peut continuer à avoir des offres et choisir, même si Lille est en Ligue des Champions, d'aller dans, entre guillemets, un plus grand club, en tout cas un plus grand club au niveau de l'histoire, un plus grand club, puisqu'il a même des offres à l'étranger.
Ça ne lui fait pas une grande publicité ce soir, ce qui s'est passé. En termes de coaching, de management, là, il a la balle de match.
C'est un match.
Il fait une saison extraordinaire, Fonseca avec Lille, donc c'est pas sur un match.
Il a pas une.
Sur la Ligue des Champions, ce que je veux dire.
Et Régrois qui fait une saison extraordinaire.
Pendant des années, il a joué la Champions avec le Shakhtar. Aujourd'hui, il a la possibilité d'aller à l'AC Milan, c'est la Ligue des Champions. Il se qualifiera avec Lille en Ligue des Champions ou pas. Marseille est loin de la Ligue des Champions. Après, il peut être excité par le projet marseillais, le stade Vélodrome et ses grands dirigeants. Mais en termes.
Excité ou pas?
C'était ironique ce que j'ai dit. Et
il peut aussi être excité par un club qui va jouer la demi-finale de la Ligue Europa, qui n'a pas encore dit son dernier mot, même peut-être s'il allait gagner la Ligue Europa pour aller encore en Ligue des Champions. Et puis c'est quand même un club. J'espère que Fonseca, il regarde et qu'on regarde encore quand on est entraîneur l'Olympique de Marseille comme un grand club qu'on peut avoir envie d'entraîner.
Oui, mais c'est un garçon, si tu regardes comment il construit ses équipes, c'est toujours stable. Je ne suis pas convaincu qu'il apprécie qu'on lui change 28 joueurs par saison non plus.
Est-ce qu'ils vont continuer à changer 28 joueurs par saison?
14.
Ils vont prendre aussi après de leurs erreurs.
C'est devenu le modèle de gestion des clubs.
Ils veulent peut-être changer aussi de président, de dirigeant, ça.
Allons bon.
Un petit peu. Bon. Hein?
Tanguy, Alexandre Lacazette a réagi chez nos copains de Prime Vidéo. Vous me dites oui, vous me dites non, vous me dites
non. Non, pas pour l'instant.
Pas pour l'instant, merci beaucoup. Si, regardez, on l'a. Vous n'avez plus qu'à lire. On a senti qu'on pouvait faire quelque chose en seconde période. On les a sentis fébriles. Le coach avait dit que le troisième but serait important. Il a de bonnes paroles dans le vestiaire. Les mots justes et utiles pour réveiller l'équipe. Il a l'air de nous dire ça de manière extrêmement... On a vécu un truc de fou ce soir.
Oui. Après, ils ont l'habitude, comme a dit Didier. C'est pas la première fois qu'ils renversent des montagnes. Après, ce qui serait sympa de savoir, c'est pourquoi nos amis lyonnais ratent si souvent leur entame de match. Et sont aussi souvent menés. Et qu'on pointe du doigt le coaching... Mais s'il y a un bon coaching, ça veut dire que peut-être l'équipe commence est bancale.
Ok, d'accord. Sur le jeu défensif de l'OL ce soir, ils ont gagné, certes, et tout ça. Sur les trois buts encaissés.
Sur les coups de pied arrêtés.
Deux sur coups de pied arrêtés, les deux de Diakité. Et l'autre...
Franchement, défensivement, ça a été pathétique.
Le but Lyon,
l'engagement physique en première mi-temps des Lyonnais, c'était vraiment très très faible. Matic, sa première mi-temps, elle est terrible.
Très belle passe décisive.
Voilà, non mais il y a la passe décisive, il y a l'engagement. Je veux dire, c'était sur la première mi-temps, c'était un joueur du dimanche matin. Et puis sur la deuxième, du pied droit, il fait une passe remarquable. Donc il est.
Mais après,
évidemment,
il n'a pas sa place le dimanche matin.
Et tiens, il le sort.
Ça dépend
après.
Quelle équipe.
Ouais. Pierre Sage, il le sort, Matic. Quand ça bascule, quand tu fais basculer le match après derrière, Matic est sur le banc.
Enfin, tu vas pas dire que Matic n'a pas le niveau quand même. Non, d'accord. Non. Là, il se trouve.
Non, mais il n'a pas été bon.
C'était pas son soir. Mais je vois jouer souvent en Lyon.
Oui, mais on est d'accord.
Avec le ballon, il peut être incroyable.
Il est
Didier, là, c'est factuel.
Quand je te disais, dans les renforts, les mecs qui ont transformé l'équipe, Matic en fait partie. Mais ce soir, il n'a pas été bon.
Oui, mais je disais que Matic était quelqu'un qui n'a pas découvert non plus la Ligue 1.
Non.
Didier, il est très bon sur un jeu posé.
Oui.
Mais dès que ça joue box-to-box, il n'est plus là, il ne peut plus courir, il n'a plus les jambes.
Non, il a 34 ans, mais après, il a une intelligence de jeu, si tu veux, et une sûreté.
Incontestable. Dans le football d'aujourd'hui, il faut beaucoup courir et vite.
Oui.
Ce n'est pas un footballeur moderne. Non. Il y a 10 ans, c'est pas l'âge. Il y a 10 ans, c'était le même joueur.
Mais il y a 10 ans, ça n'a jamais été un sprinter non plus.
C'est ce que je veux
ça
dire.
Ça n'a jamais été ses qualités.
C'est ce que je veux dire.
Ça n'a jamais été ses qualités. Mais force est de constater qu'à Lyon, sa venue a été capitale.
Non, mais là, il était sur.
Et qui sera encore très bon, là, malgré
absent,
tout.
Pas... Il était absent dans les duels.
Là, il était factuel, pas.
Encore une fois, sur les courses, il a toujours eu un déficit sur les courses,
oui,
etc. Mais là, dans la première mi-temps, sur les duels, il avait un déficit. Et ça, il ne l'a pas tout le temps. Je veux dire qu'il met de l'impact dans des matchs, oui. Même en courant très
ce
peu.
Ce soir, il n'a pas été bon. C'est vrai.
Zegrova a marqué.
Mais la manière dont vous en parliez ne me plaisait pas. Parce que ça faisait genre.
C'est pas ça qu'on a dit.
Non, c'est pas ça. Moi, je trouve que Lyon subit,
oui.
Quand Lyon doit défendre,
oui.
Je le trouve un peu pâteau et moins à l'aise qu'il n'a pu.
Ah,
évidemment, il y a l'âge.
Avec
le ballon, il est impressionnant. Sans le ballon, il est parfois dérangeant, je trouve.
Peut-être faut plus le protéger ou il y a quelque chose à revoir là-dedans. Ah, de manière, c'est pas innocent. Si chaque fois, leur première mi-temps, ils
quand
sont
ils
pas bien.
Quand ils ont la possession, il est très bon. Quand ils sont en difficulté, il est très mauvais.
Disons que l'association, moi, je trouve, avec Tolisso, c'est un petit peu embêtant. On va dire que je ne trouve pas que ce soit le meilleur milieu de terrain. Non, mais c'est vrai. Il n'a pas toujours été titulaire, hein, Tolisso, ces derniers temps. Et je trouve que l'association avec Matic, ça fait un petit peu trop.
Tolisso,
il manque quelque chose. Il manque du dynamisme. Il manque de quelque chose. Et voilà, quand on les écarte un peu, qu'il n'y en a plus qu'un des deux, c'est déjà un peu mieux. En revanche, Cacré.
Ah.
Voilà, un mot sur Cacré, parce que c'est quand même un joueur aussi qui a été ressuscité par Pierre Sage. Il est à un niveau depuis quelques semaines, quelques mois même, qui est exceptionnel. Hein.
Mais ressuscité par Matic aussi.
Peut-être, sans doute.
Mais c'est vrai que tu as raison, peut-être l'association, il en faut un qui le protège et que Tolisso peut-être n'est pas la personne.
Cacré, parce que Cacré et Lacazette, ils sont d'une...
Ah, Cacré, après, il perd beaucoup de ballons. Mais il a...
La passe sautée sur le coup franc de Yazidze. C'est-à-dire qu'Akeroyd, au marquage, c'est terrible. Mais après, oui, dans le jeu, effectivement. Si je peux me permettre, hein, de...
Bienvenue, monsieur le romancier.
La dédicace de Zegrova sur son but, fruit d'une enquête de la rédaction de l'équipe du soir. C'est...
Ah oui.
On est prêt, là. On y va.
Oui, effectivement, il a marqué son 6e but de la saison en Ligue 1 ce soir, notre ami Eden Zegrova, avec cette photo, vous le voyez, il a rendu hommage en fait à un rappeur anglais, Emuncho, avec, voilà, on a un petit son, on a essayé de retrouver un petit son, Tranquility. La photo de Zegrova, d'ailleurs avec le masque, est signée Alex Sirio, c'est un photographe du journal L'Équipe.
Oui. Oh, bon, oui. Bah, les photos reporters du journal L'Équipe. On n'a pas un petit son de votre rappeur? Non? On l'a pas. Bah allez-y alors, Jacouille, allez-y, hein. on va pas lancer la musique. Hein. Mes petits.
Il est kosovar comme lui, non? Pas d'origine? Enfin, je veux dire,
il est anglais.
Il n'y a pas d'explication.
Non, c'est juste une question de goût. Parce c'est évident, vous avez.
On aime tous cette musique.
Les notes de l'équipe du soir, vous les mettez qui, les petits? Ce soir? Est-ce qu'il y a le coach?
Pierre Sage?
Les coachs? Eh ben, on note Pierre Sage. Allez-y, Pierre Sage, ce soir. C'est satisfaisant. Ça va pas plus haut quand même?
Il y a sa compo de départ. Bah, doit pas être satisfaisante parce que la première période n'est pas bonne.
Ouais.
La première mi-temps, il y a la compo et il y a le jeu.
Il y a le jeu.
La première mi-temps où franchement ils sont à la rue. Après 6, c'est pas mal quand même.
Oui, c'est satisfaisant. 7, c'est bon.
Avec l'état d'esprit affiché, la force de caractère et le résultat, on va être quand même plus un 7 qu'un 6. Hein.
Mmh. Bah oui.
D'accord, Yvan.
Non, je trouve.
Mais la victoire quand même.
Non, mais c'est 4 à 3.
C'est très à l'écoute, Étienne, depuis qu'il a changé de côté.
Ouais. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai une oreille.
C'est la bonne oreille.
C'est la bonne oreille.
Deux fois au score pour gagner à la fin. Bon.
Paolo Fonseca, mes amis. On peut le noter. 4. Alors lui aussi, noter le coach. Mais il doit gérer deux blessés.
Non.
Non, c'est pas ça.
Ah, c'est pas ça.
C'est pas ça.
3,5.
3,5, ok.
Parce que le premier blessé.
On m'a piqué mon 3.
3, faites 3 avec la main. Voilà, 3.
Ah non, il est là.
3, exactement.
3.
3, c'est mauvais. 4,
parce que
c'est
son premier changement, ça lui fait quand même
beaucoup de mal.
Faire rentrer Zegrova, non?
Oui.
Et Zegrova, il marque un but extraordinaire. Et aussi. On peut aussi être surpris de ne pas le voir au départ du match.
Mais Yaziki, en ce moment, il était bien, donc c'était une
manière
peut-être. Mais il se blesse.
Adducteur, je ne suis pas persuadé qu'on le revoie d'ici la fin de la saison.
Non.
Ok, mes amis, on note qui à présent? Vous pouvez prendre la main en régie, hein, si vous avez des noms. Zegrova à présent.
Je pense qu'ils sont à mi-temps à la régie. Ouais.
Zegrova.
On note, mais il a joué guère plus d'une mi-temps.
Bah, il a joué une grosse mi-temps. 7 à présent, le 6 satisfaisant, 6 satisfaisant, 6 satisfaisant.
Ah bon
Scourtien. Bah. Bon match.
Bah, moi, disons, si on le note sur la durée qu'il a passé sur le terrain,
c'est vrai.
Il met quand même un but. Alors, c'était quoi le but la dernière fois? C'était un but extraordinaire, celui-là, comment tu le qualifierais?
De légende.
Non, c'était un but incroyable.
Celui-là, il est
incroyable.
Il est pas mal aussi.
Il est pas mal, on va dire. Oui, il est pas
toi,
mal.
Pour toi, tout est incroyable. Donc,
non, surtout quand c'est Zegrova. Et en plus de ça, il a cette qualité, c'est-à-dire qu'il est capable de faire.
Il enchaîne très vite.
Et il enchaîne très vite, et puis il marque toujours un petit peu ce but-là. Hein. Il y avait le détenteur des droits qui a fait un petit sujet Zegrova et on le voyait donc à la mi-temps marqué
que les beaux buts
qui ressemblent à celui-là
au deuxième poteau aussi.
Je crois qu'Adil Rami a osé une comparaison avec Robben.
Ouais, parce que c'est le deuxième poteau.
Ouais, mais osé.
Robben. Ouais.
Est-ce que c'est une star de notre championnat, Edon Zegrova?
Bah, il est dans les cinq, là.
Je sais pas, mais c'est un type qu'on découvre quand même.
Il est attractif, c'est un bon dribbleur quand même. Il a des qualités, ouais.
Et quand vous regardez Lille, vous dites, il joue pas.
Bien sûr, c'est le joueur fort de l'équipe. Après, en termes de statistiques, c'est le sixième but en championnat. Il a 5 passes d'aise, je crois. Pour être une star du championnat, il faut être à 10 et 10 minimum. Après, dans le jeu, il est bon, il est intéressant, sans me faire rêver les gens, mais c'est un super joueur. Moi, je me rappelle quand il jouait pas trop à Lille, j'avais des clubs étrangers qui m'appelaient pour me demander après ce joueur sur le peu de temps de jeu.
Il est spectaculaire, c'est rare.
Et en France, il n'était pas encore et ça n'avait pas pris encore. Mais on voyait des choses. Et puis après, il s'est installé dans l'équipe. C'est un joueur de talent. Mais aujourd'hui, il n'est pas sur un niveau de stats incroyable non plus pour la Ligue.
Yvan, tu as raison, quand il touche le ballon.
Il a
on s'attend à voir quelque chose.
Oui,
et je pense que le latéral qui est en face doit se dire qu'est-ce qu'il va me faire.
C'est un bon dribbleur. Il est dribbleur, ça devient une denrée rare quand même, quoi, en général, tu vois. Bon.
Mais vous n'étiez pas d'accord sur le terme star. C'est-tu quelque chose
C'est pas une star encore.
Il passe dans la rue.
Sur les chiffres, il n'est pas encore à ce niveau-là.
S'il met le truc,
pour être une star dans le championnat, je pense qu'il vaut mieux jouer à Marseille et à PSG aussi qu'à Lille.
Ça joue.
Jonathan David, t'es un super joueur et t'as 17 buts. Est-ce que c'est une star du championnat? Je sais pas.
Oui, mais on se lève pas pour Jonathan David. C'est un buteur. Non, mais c'est un buteur. On dit pas, putain, il y a David.
Non, mais si, je suis pas d'accord. Mais
C'est un buteur redoutable.
Tu te lèves pas parce que t'es déjà grand, t'as pas besoin. Mais moi, je me lève pour regarder Zegrova parce que, franchement, c'est un joueur excitant. C'est un joueur qu'on a envie de voir quand il est.
Hein non,
il parle de David.
Ah, je parlais de David, moi.
Toi, tu parles de Zegrova.
Non, parce qu'on dit à Lille.
David, il garde sa part de mystère. Parce que, bon, il est toujours à Lille. On a pensé qu'il serait transféré parce que Lille fait beaucoup de transferts et on pensait qu'il était demandé de partout.
Là, il reste plus qu'un an. Donc,
on imagine que c'est le cas. Mais c'est vrai qu'il est.
Tu te lèves pas forcément pour David.
Non.
Le match pour de Zegrova.
Parce que je digère moins bien.
Mais tu vois, un club comme le Napoli envisage, et je pense qu'ils vont le faire pour remplacer Osimhen, de faire David.
Oui.
Alors qu'aujourd'hui, Zegrova
n'est pas
dans les petits papiers du Napoli encore ou de ce type de club.
D'accord. Bah, ça demande confirmation un peu. Ouais.
Timothée, le match de Zegrova, vous l'avez vu comment? Vous l'avez vu enflammer le stade Pierre-Mauroy? Oui, non?
Non, puisque ce qui est intéressant par rapport à ce que vous étiez en train de dire, c'est que c'est pratiquement le premier nom qu'on regarde sur la feuille de match quand on la reçoit une heure avant le début de la rencontre. On voit qu'il n'est pas titulaire dans l'équipe de Greg. On a tout de suite dit qu'il y avait une surprise, l'absence de Zegrova. Ça commence quand même à être le joueur, effectivement, qu'on regarde en premier. Quand il est rentré, nécessairement, le stade Pierre-Mauroy a frissonné, a scandé son nom. Il a marqué assez rapidement. D'ailleurs, il a fait une entrée, on a très rapidement vu qu'il était bien en jambes. Et puis après, cette sortie, donc évidemment, on a envie de parler de Zegrova, mais on a quand même aussi envie de parler de l'entraîneur qui s'est un peu renié par rapport aux préceptes qu'il nous propose depuis le début de la saison, en le sortant pour faire rentrer un défenseur de plus et pour bétonner, ce qui ne lui ressemble pas.
Notez Alexandre Lacazette, le général. Bah, pourquoi on l'appelle le général? Je crois que c'est par rapport à son salut.
C'est le général.
C'est le salut du général Alexandre Lacazette. C'est un 7 pour Didier Roustan, c'est un 6 dans le Ville-Peuple, en tout cas non, 7 pour Bernard qui suit son président. Bravo.
Yvan, tu veux que je te pote des...
Il est buteur et passeur.
Non, mais Lacazette, il marque, il passe et chaque fois il te sort de l'ornière. Il a failli réussir en première mi-temps dans la surface de réparation une action
incroyable.
Il rate après de passer sur
et
sa
après,
tête.
Bon,
laquelle? Excusez-moi, parce que moi j'ai la remise de Cacré.
Non,
c'est la remise de Cacré, mais elle était
c'est celle où tu penses qu'il perd le ballon. ballon,
il se retourne,
il la garde, il la récupère. Enfin, tu te dis, il va aller au bout. Et puis au dernier moment, il la perd. Et c'est un joueur indispensable pour Lyon. Et puis c'est un joueur intelligent, c'est un beau joueur de football. Et c'est chaque fois lui, tu vois, contre Brest, deux minutes après le 3-1, boum, il te met la reprise de volée. Contre Montpellier, je te dis, ils sont à la rue, ils sont menés 1-0. Et boum, il est à gauche. OK, l'erreur du gardien, mais c'est encore lui qui... C'est chaque fois, c'est le capitaine, quoi. Vraiment, c'est un super joueur, Lacazette. Il n'a pas eu la carrière. C'est l'équipe de France qui sera un regret. C'est comme ça.
Je t'y crois
mais
pas
tu as ses stats en Angleterre, il a eu des bonnes stats aussi à Arsenal. Mais moi, je trouve que ce qui est extraordinaire quand on fait un joueur hors norme, c'est que chaque fois qu'il y a un ballon dans la surface et qu'il y est, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Alors, dans le très bien, quand tu expliques.
Oui, comme il peut en rater.
Comme à un moment, il y a la tête.
Oui, la tête, il doit la mettre.
Il doit la mettre à bout portant, il la met au-dessus.
Oui, oui.
Mais à un moment.
Je pense qu'il est surpris.
Ouais, mais oui, parce qu'il est gêné par Berama, me semble-t-il. Mais après, un moment ou un autre, tu sais qu'il y a un ballon, il va soit le donner. Comme il a donné sur Berama, soit il va marquer,
bien sûr.
Et c'est toujours des buts. Là, pour le coup, c'est vous.
Non, mais c'est un joueur de football, outre les qualités, le sens du jeu.
Sa passe, elle est géniale.
C'est un finisseur, mais c'est
elle
aussi
est simple,
un
géniale, distributeur,
tu vois, dos au but, truc. Il lui manque juste l'explosivité, un peu, si des fois il y a une ouverture, il ne pourra pas faire 30 mètres.
Et lui, on peut dire que c'est une star de notre championnat.
Bah, c'est un super, ouais.
Ah bah oui, non, mais là, vraiment.
C'est une star, ouais.
Alors, oui, vraiment.
Là, il est quand même quoi? 17 buts.
Parce que il est.
Avec un pénalty.
Donc,
il a 16 buts dans le jeu.
Ouais. Ce qui fait aussi qu'on
est. Il n'y a pas beaucoup
star.
De joueurs qui ont 16 buts dans le jeu. Il n'y en a aucun.
Voilà. Mais je trouve ce qui fait.
Sauf Mbappé,
une star,
Mbappé
c'est
il a 16 buts dans le jeu
équipe,
parce qu'il a 8 pénaltys. Et il est à 24. Ou il a 8 plus 1.
Étienne. Didier, écoutez, Étienne.
Oui, vas-y.
Non. Parce que je trouve que quand on est une star, c'est qu'on est un peu au-dessus de son équipe. Et je trouve que Lacazette, il est au-dessus
évidemment
de ses coéquipiers.
Ah oui,
il
apporte.
Presque dans chaque match, quoi, qu'il a. Et en plus, je trouve qu'il est positif. On l'a vu ce soir. Il a encouragé, etc. Pourtant, il n'était pas, Didier l'a dit, en première mi-temps, il n'était vraiment pas servi. Les centres, ils allaient au troisième poteau, c'était n'importe quoi. Il s'énervait
terrible,
pas,
le centre,
il tenait
le centre,
bien
le
et tout ça. Il est.
J'avais même l'impression qu'en première période, il avait juste un objectif aussi, c'était peut-être de prendre un petit carton jaune pour le débarrasser, le soulager avant la finale de la Coupe de France.
Oui.
Voilà, peut-être qu'il devra faire attention sur les prochaines journées de ne pas en prendre ou de ne pas jouer.
Ah non, il
va pas jouer. Un moment quand il a fait la semelle.
La semelle.
Ouais.
Je me suis dit, tiens, non, elle n'est pas utile. Je me suis dit, tiens, il a
une attaque d'attaquant.
Ouais, voilà.
Ça fait une demi-heure qu'on débriefe l'Olympique Lyonnais, qui a gagné. Je voulais juste vous parler de l'utilisation de Ryan Cherki. Aujourd'hui, très clairement.
Il rentre tard, hein.
Oui, il rentre tard, mais très clairement, il est remplaçant. Notre petite pépite là. Non,
ça,
mais il est utilisé.
C'est indiscutable.
Non, mais il est
remplaçant, mais il rentre bien dans les matchs.
Oui, mais.
Le fait est que chaque fois qu'il a mis titulaire.
Ouais. Il est passé à côté.
Il s'en sortait pas.
Ouais.
Comme Fofana, peut-être. Bon, enfin, c'est pas le même style. Mais chaque fois qu'il entre, il te fait des différences, mon ami.
Ouais.
Et là aussi, c'est une force de Pierre Sage. C'est que, manifestement, Cherki l'accepte parce qu'il a l'air d'avoir son caractère. C'est toujours quelqu'un. C'était la petite diva. Pas la petite diva, mais le petit génie.
Il râle moins parce que l'équipe gagne de plus, là.
Oui,
donc c'est difficile de râler, de montrer son mécontentement.
Tu sais comment c'est.
Oui.
Et il est vraiment dans l'esprit. Il faut qu'il gagne petit à petit.
Il a l'air d'accepter un rôle de super joker.
Ouais.
Il n'acceptait pas avant.
Absolument.
Mais en même temps, il n'a pas fait la démonstration qu'en attaquant les matchs, il était bon.
Exactement.
Par contre, quand il rentre, il le met,
que ce soit sur le côté ou un peu derrière au truc.
Alerte générale, on va du côté de Lille, Stade Pierre Mauroy. C'est le coach de Lille, qui est en conférence de presse, Paulo Fonseca, a perdu ce soir, a perdu cher.
Sa gapette,
on y va.
Justement, vous parlez de ce changement, de l'entrée d'Alessandro à la place de Zegrova, qui lui-même était rentré. Déjà, est-ce que c'est parce que vous aviez prévu un temps de jeu réduit pour Zegrova? Par ailleurs, est-ce que vous avez, là, a posteriori, la sensation de vous être un peu renié en faisant rentrer un défenseur de plus pour maintenir le résultat?
La vérité est que à le deuxième temps, nous ne jouons pas. Et j'ai pensé que, ok, si nous n'avons le ballon, nous devons défendre mieux. Et c'est pourquoi j'ai fait entrer Alex. Mais c'est pas un problème. J'assume la responsabilité. Je suis la responsabilité pour tout ce qui se passe dans l'équipe. Et aujourd'hui, un peu fois, je suis la responsabilité pour le changement et pour les choix et pour les résultats.
Paulo, qu'est-ce qu'on dit dans le vestiaire à la sortie d'un match comme ça, un peu fou? Quels sont les mots qu'on trouve pour remonter le moral des joueurs?
Que nous devons penser sur le de prochain match, que nous devons préparer pour gagner le prochain match. Mais aussi, j'ai dit à le joueur que ce n'est pas possible de faire beaucoup d'erreurs et vouloir gagner le match. Ce n'est pas possible seulement avec 3 minutes et après faire le troisième. Nous avons pris 2 buts. Le match doit terminer pour un certain moment. Et la gestion de le match n'était pas bon.
C'était Paulo Fonseca, Caliboul. Et c'est sûr qu'on peut avoir les boules quand on
est... Ah bah les grosses quand même.
Ah mais c'est une défaite qui va compter. Hein. Parce qu'il y a une énorme déception. Aston Villa en Ligue Europa Conférence. Et là, les Lillois avaient vachement bien joué tout ça. Ils avaient perdu à l'issue des...
À domicile, les deux. Hein.
Il est revenu sur une question piquante de Timothée Mémon sur est-ce que vous avez l'impression de vous renier tout ça. Lui partait du constat que Lille ne jouait pas. Mais ça s'entend. Lui, il ne jouait pas en deuxième mi-temps. Donc, en deuxième période. Donc, finalement, si mes gars ne sont pas en situation de jouer, bah, je vais consolider ma défense. Expliquer comme ça, c'est quelque chose qui est...
Bah, moi, j'entends. Dire,
qui est, voilà, qui est...
Après, bah, il dit avec ses... On n'est pas dans un bon soir, donc j'essaye de fermer.
Bah, ouais. On blinde, quoi.
Ouais. Ouais, mais ils étaient dans un bon soir, je m'excuse, mais si on regarde la première période, ils étaient dans un bon soir.
Ouais.
Ils sont mis sur
c'est vrai. Bien aidés par les Lyonnais aussi.
D'accord, mais ils sont mis sur la touche stop dès la reprise de la seconde période. Mmh. Et aussi de renclencher la machine, notamment dans la possession de balles, d'essayer de continuer à développer le jeu. Il a pris l'option reculoir et on bétonne en défense. Et ça s'est retourné contre lui.
Mais les buts qu'ils prennent, quand même, sur les duels, ça manque d'agressivité. Ils prennent au moins 2 centres sur les 3 buts.
Ouais.
Ils sont pas beaux sur les buts. Quoi. Je veux dire, ça manque d'agressivité, de placement. Ils sont pas présents. Ça, effectivement, le coach, il y est pour rien. Mais... Je pense que la défense a fait aussi.
L'apathie de la charnière sur le dernier but, notamment, où ils se regardent, c'est à toi, c'est à moi, et puis ben non, finalement, c'est au...
Et pourtant, Lille défend mieux cette année, puisqu'après 32 journées, j'avais constaté, donc là, Lille...
Des progrès ?
Ouais. Ils avaient encaissé 40 buts après 32 journées. Là, aujourd'hui, c'est 27-31. Ouais. Il y a 9 buts de différence en faveur de cette saison pour le jeu défensif. Je trouve que Fonseca avait réussi à créer une équipe un peu moins ouverte aux 80 et lorsque Lille attaque. Je trouve que c'est plus...
Et quand tu subis ou t'es pas bon derrière, tu peux aussi espérer que ton gardien te sorte un ou deux miracles. Bah là, il n'y a pas de miracle. Chevalier. Je ne dis pas qu'il est responsable.
Non, sur les buts, c'est à bout portant.
Non, je ne dis pas qu'il est responsable. Oui, mais parfois, sur des situations comme ça, tu as un gardien qui fait deux arrêts exceptionnels et qui te permettent de rester en vie. Quoi.
Il y en a fait un ou deux quand même.
Sur à bout portant,
côté droit sur Maldé.
Bon, mes amis, on aura l'occasion de retourner du côté de Lille pour entendre Pierre Sage. Voilà, Pierre Sage, l'homme du Money Time. C'est 24 points gagnés par l'Olympique Lyonnais. Pierre Sage, après avoir été mené, c'est un record en championnat ce soir. C'est l'Olympique Lyonnais est 7e du championnat. L'autre information côté classement, c'est que Lille ne passe pas 3e. C'est Brest qui reste 3e, donc une place qualificative directe pour la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, en finale, réponse évidemment demain soir, avec la demi-finale retour Paris Saint-Germain-Dortmund. Que retenir des confs du jour? Un, la sortie de Luis Enrique, en mode un peu méthode Coué, et en français, s'il vous plaît. Regardez.
On va gagner.
C'est la seule phrase que je connais en français.
On va gagner.
Uniquement cette phrase. Et comme je l'aime bien, je me dis toujours que mon équipe va gagner.
On va gagner, bien sûr.
De l'autre côté, Edin Terzic, coach de Dortmund, y croit et évoque ce match retour comme un tout autre match avec une petite information sur Paris qui nous a fait poser cette petite question. Écoutez Edin Terzic.
Nous devons tout faire ensemble avec un bon plan, une bonne idée. Paris sera certainement meilleur qu'à l'aller. Nous voulons gagner ce ticket pour la finale. Nous nous y attellerons ensemble demain.
Et Elin Terzic nous pose cette question. Paris sera certainement meilleur qu'au match aller. Est-ce que ce sera suffisant pour aller en finale? À cette question, deux chroniqueurs de la gauche ne sont pas d'accord. Jingle. Est-ce suffisant pour aller en finale? Oui, nous répond Étienne. Non, nous répond Guillaume. Eh bien, on va commencer le plus logique à écouter. Tout d'abord, Étienne Moati, vous avez 30 secondes. On vous écoute.
Ben oui, je pense que ça peut être suffisant parce que le Paris Saint-Germain au match aller a fait un mauvais match. Il a fait un mauvais match dans l'intensité, il a fait un mauvais match dans la créativité, il a fait un mauvais match tactique parce que le positionnement, par exemple, de Dembélé n'a strictement rien donné. Et malgré tout, il s'est procuré plus d'occasions que Dortmund, qui lui a fait plutôt un bon match. Donc Paris aurait dû déjà mieux s'en sortir. Donc Paris va faire mieux. Mbappé ne peut pas faire moins bien qu'au match aller. Donc je vois beaucoup d'éléments qui sont réunis pour que le Paris Saint-Germain soit un petit peu au-dessus de Dortmund demain soir.
Non, Guillaume Dufy.
Moi, je trouve que depuis le début de cette histoire, de cette demi-finale, on oublie trop souvent qu'il y a un adversaire. Dortmund, en l'occurrence. Toi, tu dis que Dortmund a fait plutôt un bon match. Je suis pas persuadé qu'il soit un grand spécialiste de la Bundesliga et de Dortmund. Et je pense que Dortmund peut aussi s'améliorer et faire bien mieux et concrétiser et marquer et être plus réaliste devant le but. Donc, être meilleur pour le Paris Saint-Germain, effectivement, c'est une obligation. Mais il faudrait aussi que Dortmund n'élève pas son niveau de jeu parce que lors de la phase aller, nos amis Dortmund avaient aussi posé des problèmes à Paris.
Pas inintéressant, Guillaume, mais vous jouez en 30 secondes.
Que la Bundesliga, on regarde un peu quand même Dortmund, ça ne nous est pas complètement étranger. Ouais.
Et le site L'Équipe est évidemment réquisitionné, le président également. Vous partagez la sensibilité d'Étienne ou celle de Guillaume? On vous écoute, mon cher Didier.
Tu connais ma réponse?
Ben oui, je la connais un petit peu, parce qu'on se fréquente déjà depuis... On se
voilà,
fréquente,
hein, depuis, et puis je l'ai dit sur ce plateau, c'était il y a quelques jours. On dit que tout dépend de Paris, mais je suis comme Guillaume, ça va dépendre aussi de Dortmund. Parce qu'ils sont plus forts qu'à l'époque où ils étaient en poule, parce que il y a Sancho, parce que c'est une équipe quand même. Moi, je me souviens, alors ça remonte un peu, mais quand ils gagnent la Coupe d'Europe des clubs champions, ils sont outsiders aussi contre Manchester United. Et à Old Trafford, les 10 minutes, quart d'heure de Manchester est de folie, mais après, ils se font piéger parce qu'ils ne marquent pas à ce moment-là. Et Dortmund est très bon. Et en finale, contre la Juve est archi favorite et c'est machin. Et c'est des joueurs, heureusement qu'ils ont baissé de pied en deuxième mi-temps, parce que sinon, tu t'en sortais pas. Et c'est eux qui ont la balle de 2-0 avant la balle de 1-1, quoi, si tu veux. Donc, je veux dire par là que l'adversaire, on le minimise un peu dans cette histoire. J'ai l'impression qu'on dit, bon, j'ai Mbappé, Dembélé, machin, ça roule, hop, là, on roule ma poule. Et peut-être ça va se passer comme ça, on peut le souhaiter, mais si il y a un peu de maladresse, parce que dans le football, ça se joue à ça, tu vois, que dans les... Moi, je pense que les 20 premières minutes, si ça bloque, et que tu rates ben, peut-être des occasions un peu faciles, tu vois, je ne sais pas après si elles vont se... Et on a vu à domicile... Bah, contre
donc,
Milan,
pas,
c'était,
donc Paris
c'était,
va pas se qualifier,
c'était quand hein. même dur. Non, contre Newcastle, c'était
ah bah
l'enfer.
Si, c'est un peu salidé quand même.
Ce week-end, oui. J'ai vu une heure de leur match contre Augsbourg.
Oui.
C'était très bon. C'est Augsbourg.
Et
c'est
ils avaient fait tourner.
Ils avaient fait tourner.
Oui, bien sûr.
Très bon. En
oui.
confiance.
Oui.
Et vraiment.
C'est une machine.
C'est pas du tout comme on les avait vus avant le match de championnat qu'ils avaient fait avant.
Exactement.
Et après, c'était le psy, bravo. Et aussi que c'est un club qui a une culture
européenne,
la Ligue des Champions, et tu en revenais, qu'on n'a pas Paris. Et ils savent appréhender,
Paris
gérer.
Paris là, maintenant.
Oui, oui.
Dortmund, pour moi, a une culture de la Ligue des Champions plus forte que celle de Paris Saint-Germain.
Non, enfin, bon, c'est quand même une équipe qui la joue tous les ans, qui a été en finale il n'y a pas longtemps.
Oui, mais qui se prend des
claques mais
plus ou moins.
Le sens de la question, quand même, au bout du compte, parce que...
Ah, tu sens que...
Non, mais le sens de la question, c'est finalement, qui va gagner? Qui va se qualifier? Bah oui, c'est quand même ça l'idée.
Ben, moi,
est-ce suffisant pour aller en finale?
Ce soir, je n'ai pas de certitude. Je donne un petit avantage au PSG.
Ah,
mais pas,
aussi
mais
ah,
pas
bah,
suffisant.
Ah, mais c'est pas la question.
Non, mais
tout ne dépend pas de Paris.
Tout ne dépend pas de Paris.
Voilà. Bon, voilà.
Que vaut... C'est pas ça la question.
Si Dortmund fait un grand match, ils battront Paris.
Que vaut ce 1-0? Que vaut ce 1-0? Que vaut ce 1-0 du match aller pour Opta, notre partenaire spécialisé dans les statistiques? Paris est désormais en ballotage défavorable pour rallier la finale à Wembley le 1er juin. 39% Voilà les faveurs.
Heureusement qu'il n'y a pas l'histoire du but à l'extérieur. Parce que sinon.
Et 61%.
C'est une bonne observation. Est-ce que ces stats-là, elles prennent en compte depuis qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur ou pas?
Parce que sinon, ça ne vaut rien. Alors, tes stats-là.
Alors, pardonnez-moi. La stat opta m'a été donnée comme ça sans aucune justification.
Mais il faut toujours sourcer.
Parce qu'après, si.
Je source opta.
Si c'est depuis l'abandon de la règle.
2021-2022.
Voilà, et sur les quatre derniers précédents.
Oui, tu n'as pas assez de références.
Ça ne pèse pas lourd.
Donc c'est vrai que
la statistique, elle ne sert absolument
à
rien.
Avant le changement,
c'est une escroquerie.
Est-ce que c'est déjà sur régie, ils avaient réussi à faire la stat, l'habillage, c'est con.
J'ai juste ma petite boîte à questions. Est-ce qu'on confond la valeur d'une équipe, c'est-à-dire le Borussia Dortmund, et on va dire et son prestige? Puisque 1-0 face au Real, on ne serait pas là en train de chanter Ramona. 1-0 face à City, voilà. Et là, c'est juste Dortmund. Est-ce qu'on confond la valeur de cette équipe et un peu son prestige, en fait. Et finalement, c'est un peu biaisé.
Un peu, parce que quand on a vu les tirages avec le haut du tableau et le bas du tableau, et c'est une réalité quand même. Tu joues le Real Sociedad, tu joues Dortmund, c'est pas pareil que jouer City, le Bayern ou le Real. Donc ça, c'est
ou l'Atlético Madrid. Et ils ont éliminé l'Atlético Madrid. Avec l'Atlético Madrid, tu dirais pas ce 1-0. Si
sans voler le match.
Et à l'aller, ils tirent deux fois sur les poteaux.
La synthèse de ce débat, pour se qualifier, il faudra que Paris soit bien meilleur.
Voilà, pas meilleur, bien meilleur.
Meilleur, il faudra qu'il soit bien meilleur. Et moi, je pense que le Paris Saint-Germain est capable d'être bien meilleur.
Oui, oui.
Parce qu'effectivement, ils ont eu la balle du 2-0 le Dortmund, mais le Paris Saint-Germain, en pas montrant grand-chose, et là-dessus, je rejoins Étienne dans l'analyse.
Étienne a raison là-dessus.
Ils ont deux poteaux quand même.
Oui.
À un moment, là,
mais c'est la même action.
Ça peut tout changer.
Il y a un pénalty non sifflé.
Tu vois, donc.
Non, mais il y a un pénalty.
Ils n'étaient pas.
Pénalty non sifflé,
ce que je veux dire, Didier, c'est qu'en étant pas bon, le Paris Saint-Germain, ils sont pas entre
est encore en vie.
À des années-lumière.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas été pas bons à cause de Dortmund, qui a très bien joué la première mi-temps et qui a fait un bon match, je trouve, sauf qu'après, il s'était un peu éteint, fatiguant. Est-ce qu'ils n'ont pas été bons parce que l'adversaire était là et te rendait pas bon, ou est-ce qu'ils n'ont pas été bons parce qu'ils ont décidé de ne pas être bons?
Le bon 11 de départ.
Ils ont un très bon coach.
On a parlé de positionnement, c'était pas le bon positionnement pour Dembélé, pas le bon positionnement pour Mbappé aussi.
Toi, Didier, tu vas
Paris a tout à perdre. On n'a rien à perdre.
Oui,
et en face, il y a un coach qui tactiquement est très très précis.
Ouais. Non, mais le match, aller au parc de Poule
n'aurait rien à perdre.
Qui a perdre le plus? Alors, puisqu'on fait vos questions, là, qui a perdre le plus entre les deux?
Franchement,
Paris ou Dortmund?
On vient de parler d'une équipe qui a une expérience européenne, qui a déjà gagné la Ligue des Champions.
Il y en a qui a 800 millions.
Elle est en demi-finale. Elle va jouer. Elle a quand même gagné le match aller, etc. Je pense que si t'es supporter de Dortmund, joueur de Dortmund, dirigeant de Dortmund,
tu seras déçu. Mais ce que veut dire Ivan, qui est ridicule demain s'il n'est pas qualifié?
Non, en tout cas, ce qui est vrai.
Est un peu fort, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, je comprends.
La valeur de cette équipe.
Louis, moi, je trouve qu'on a parlé trois jours du football.
On parle quand même de demi-finale de Ligue des Champions. Ouais. Quand même, Bernard l'a soulevé. Il y a quand même un côté du tableau qui n'a rien à voir avec l'autre côté du tableau. Donc, quand tu joues une demi-finale de Ligue des Champions, que tu es le Paris Saint-Germain, même si j'ai énormément de respect pour Dortmund, son histoire, si je trouve que cette équipe, elle est pas mal quand même, etc., tu rencontres pas toujours une équipe en demi-finale de Ligue des Champions qui a le niveau de ce Dortmund-là.
Ah oui, non, Paris...
Donc ils auront plus de pression, les Parisiens.
Exactement.
Parce que justement, c'est une chance de jouer que Dortmund, comme tu dis,
mais cette équipe-là, du Paris Saint-Germain, peut-être ça lui sera pardonné. Ça n'aurait jamais été pardonné avec un autre entraîneur que Luis Enrique. Ça n'aurait jamais été pardonné si c'était la grande équipe du Paris Saint-Germain avec Neymar, Messi, avec Ibrahimovic,
etc.
Aujourd'hui, c'est censé être une équipe en reconstruction. Ce sera quand même une plutôt bonne saison, même si...
Est éliminé. Ça ne sera pas une catastrophe comme la remontada, comme le Bayern ou des choses comme
ça.
On n'en parlera pas. Ça sera une grosse déception.
Reconstruction.
Et Dortmund, encore une fois, lors des matchs de poule, au parc, la première période a été très très complexe pour le Paris Saint-Germain, avec zéro frappe cadrée.
Et un pénalty bidon.
Zéro frappe cadrée.
On se fait un petit replay, les amis. Le soir du match aller, 1-0. Comment réagissait, on va dire, comment était l'ambiance sur le plateau de l'équipe du soir? Je demande tout de suite le replay. C'était mercredi dernier. On y va.
J'ai jamais vu Hakimi aussi faible. J'ai rarement vu Nuno Mendes aussi faible. J'ai jamais vu Dembélé aussi peu tenté. J'ai rarement vu Mbappé aussi fantomatique.
On considère que tu n'as pas été très bon, que tu as même très mauvais en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est 5 occasions partout. et qu'à l'arrivée, tu perds 1-0.
Il y a un truc dont on est obligé de parler, c'est que c'est une demi-finale aller et il y a le score. Mmh. C'est-à-dire, on ne se pose même pas la question est-ce que oui ou non, c'est un bon score ? Est-ce que oui ou non, c'est un bon résultat ?
Ça va arriver, non ?
Donc j'arrive pas à être inquiet pour le Parc des Princes parce que si le Paris Saint-Germain était tombé face à une très grande équipe, ils auraient pu être beaucoup plus punis tant ils étaient à l'envers ce soir.
Très déçu de ce qui s'est passé parce que moi je pensais qu'il y avait vraiment une classe d'écart entre les deux clubs. Je crois encore et oui, je pense que si le PSG n'a pas fait le match qu'il fallait parce que ce soir il doit y avoir moi entre les deux équipes au moins 2 buts d'écart.
Mais il y a des choses.
Ça n'empêche pas que dans une semaine ça sera bien.
Mais c'est pas possible que PSG fasse deux fois ce match-là. Impossible.
Et les gars, les amis, est-ce que c'est si difficile d'admettre que Dortmund ou Paris est moins fort que Dortmund? Là, c'était là.
Il semblerait que.
Non, mais quelques jours après.
Tout le problème était de Paris et Dortmund, qu'il soit bon ou pas bon, c'est pas le problème.
Parce que tout le monde a focalisé sur qu'est-ce qu'a fait Paris et personne sur le match aller a vraiment regardé Dortmund, pas Dortmund.
C'est des gens qui savent regarder.
De toute façon, Yvan, Dortmund, on le juge en France aujourd'hui sur son classement en Bundesliga.
Cinquième.
Voilà. On s'est dit, ils sont cinquième en Bundesliga, ils sont à 50 points de Leverkusen, ils doivent être nuls. Franchement.
Donc, ils n'ont pas fait une grande saison.
Ils font pas une grande saison. Enfin, là, c'est une compétition, différente.
Le Barça l'a un petit peu jugé à l'aune de ce.
Mais tu l'as vu, on en a parlé, tu les as vus les deux matchs contre l'Atlético Madrid. Ils font deux gros matchs quand même.
Parle de Dortmund. Moi, je voulais parler du Barça. J'ai dit, on ne fait pas pour ce qu'on fait pour le Dortmund, on le fait aussi pour les autres. On a quand même jugé ce Barça de cette saison à l'aune de sa saison en Liga, où le Barça est derrière à 14 points de mémoire du Real. Et on a dit donc, sur la saison, le Barça, c'est quand même nettement en dessous du Real. Et les faits prouvent quand même qu'en Ligue des Champions, ils sont en dessous. Tu n'as pas joué, je m'excuse, le Bayern Leverkusen. Où là, je pense qu'à l'aller, tu aurais pu te faire punir et en prendre 3 ou 4. C'est juste ça. Ça n'enlève rien au mérite de Dortmund, qui est une très bonne équipe.
Quelques informations sur le match de Tanguy Le Sévillé.
Oui, ce Parc des Princes qui va accueillir donc cette demi-finale retour. Eh bien, on promet une chaude ambiance. On va voir ce soir déjà le Parc des Princes a été illuminé aux couleurs du club. C'est plutôt réussi. Joli. Et ce mardi, eh bien, on s'attend à une énorme ambiance. Le club et les ultras ont travaillé main dans la main pour inclure tout le stade pour la mise en place des festivités. Un tifo sur 3 tribunes est attendu. C'est une info l'équipe de Loïc Tanzi. Et en cas de bonne nouvelle à la fin du match, RMC annonçait que le collectif Ultra Paris négociait un envahissement encadré du terrain.
Ok, d'accord.
Là, c'est jamais très bon quand tu commences à préparer les festivités. C'est jamais très bon.
On a un mauvais souvenir.
Ah, vous êtes superstitieux.
Ah, 93, si tu veux.
C'est l'Amérique, Paris va se qualifier de justesse.
Étienne, vous étiez en minorité sur ce débat, mais finalement, c'est suffisant. Un Étienne côté gauche, c'est suffisant pour gagner cette
Pour les gens, il n'y a aucun problème.
Dans quelques minutes, la suite de ce grand match, on ira également du côté de Lille, où Lyon donc a fait un match ébouriffant, s'est imposé sur le buzzer 4-3. On ira voir Pierre Sage, qui va évidemment nous parler de cette belle victoire, cette 7e place désormais au classement. Allez, à tout de suite. L'équipe du soir, c'est reparti pour un tour en compagnie de Bernard Lyon, Sylvain Lemay, Guillaume Dufy, Étienne Moati et le président Didier Roustan. Les 12 coups de minuit sont passés. On peut donc diffuser et attaquer le journal avec la victoire ébouriffante de Lyon à Lille, 4-3. Les Lillois menaient à la 85e minute, 3-2. Attention, accrochez-vous.
Ouais, c'était les montagnes russes ce soir au stade Pierre-Mauroy. Les Lillois qui ont bien démarré pourtant cette partie avec le premier but signé Bafodé Diakité sur ce coup franc de Yazici. 37e minute de jeu. Edon Zegrova entre en jeu quelques instants auparavant. Donne 2 buts d'avance aux Lillois. Ça ne va pas suffire. Les Lyonnais vont revenir d'abord par Saïd Benrahma. Ensuite, c'est Malik Fofana entré en jeu également qui va égaliser. Brest repasse 3e de Ligue 1 à ce moment-là de la partie. Derrière, les Lillois vont reprendre la 4e place grâce encore à Diakité. Puis Lacazette égalise de nouveau. Et en fin de match, c'est Mama Baldé qui offre la victoire aux Lyonnais avec ce 4e but. Lille est 4e à 1 point de Brest. On va écouter Pierre Sage à l'issue de cette rencontre. Il explique un petit peu sa méthode.
On applique vraiment le fameux « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». On l'a vécu en tant que club par rapport au classement quand on nous annonçait en Ligue 2. Et maintenant, c'est un ressort sur lequel on est plutôt actif quand on a besoin de l'être. Et les joueurs sont assez réceptifs de ce message-là. Et même quand on revient à 2-2, ils reprennent l'avantage. On se dit peut-être que cette fois, c'était la fois de trop et que l'histoire avait été belle jusqu'à maintenant, mais que ça pourrait être fini. Et non, il y avait encore la possibilité d'inverser la tendance et les joueurs ont eu les ressources mentales pour le faire. Et surtout la capacité tactique à déséquilibrer un bloc bas en attaque placée de manière différente sur 3 buts. Donc bravo à eux.
Pierre Sage a livré quelque chose. On a failli, on nous promettait une descente en Ligue 2, c'est ça, c'est le management. Vous voyez, on s'est sorti de ça. Donc c'est pas deux buts. Voilà, c'est
ça, il parle d'abord de l'humain et après de tactique.
Ouais, ce qui est
intéressant, c'est ce qu'il dit à la fin aussi, quand même.
Oui, le bloc bas, attaquer le bloc bas.
Ouais, sur les attaques placées.
Ouais, ils savent le faire.
Et 3 fois différemment, innocent.
Olivier Létan également est allé en zone mixte, en zone interview, pas en salle de conférence de presse. Et on était là, on a relevé sa déclaration, mais là, par écrit. Hein.
Ouais, le président du LOSC n'a pas mâché ses mots. Il a expliqué après cette défaite lilloise. On a pris un train dans la gueule, je ne vais pas vous le cacher. Je l'ai déjà dit, le sport de haut niveau, ce n'est pas pour les faibles. Il reste 2 matchs à gagner pour aller chercher je ne sais pas quoi.
Quoi que ce soit, Nantes, Lille et Lille-Nice. Propos d'Olivier Létan, ce soir, il y a un truc qui s'est joué là, du côté de Lille. Hein.
Bah oui, moi je trouve que cette 4e place, elle est plus casse-gueule pour Lille, parce que Lille, il y a un gros budget. On s'attendait à voir Lille bien classé cette saison en Ligue 1 que pour Brest. Franchement, s'ils sont 4e, je trouve que c'est une catastrophe.
Mais quand tu dis gros budget, le plus gros salaire de Lille aujourd'hui, c'est le salaire d'un remplaçant à Lyon. Hein.
D'accord, ok. Mais ça reste quand même une valeur sûre de la Ligue 1
financière. Il y a plus d'argent qu'à Brest, c'est sûr. Mais t'es loin de l'argent de Lyon.
Après, je pense que dans la manière de recruter, être 3e ou 4e pour Lille, ça peut changer beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr qu'à Brest, 3e ou 4e, ça change des choses.
Ça, c'est sûr.
Atalanta OM, c'est jeudi. Pendant que l'OM se repose, l'Atalanta a joué aujourd'hui. Victoire contre la Salernitana.
Oui, les Bergamas se sont fait peur et surpris d'entrer par un ancien de Ligue 1. C'est Loum Tchaouna, formé à Rennes et passé par Dijon avant de rejoindre l'Italie. On va le voir marquer la jolie but du pied gauche. Heureusement pour l'Atalanta, eh bien, ils possèdent dans leur rang un certain Gianluca Scamacca, toujours aussi attentif à ce qui se passe dans la surface de réparation. La passe est de Mario Pasalic et c'est finalement, on va le voir, Ton Koopmeiners qui va offrir la victoire à l'Atalanta d'une magnifique frappe du gauche. Naples, qui n'avait pas complètement fait tourner, se prépare bien avant d'affronter l'OM jeudi à domicile.
Oui, ce sera jeudi. Pendant ce temps-là, l'OM se repose.
Scamacca, 22 millions d'euros. C'était une belle affaire pour un club français, comme pour Marseille, par exemple.
Quand vous me dites 22 millions, moi, je pense à Vitinha, 32 millions.
Oui, c'était mon idée aussi.
Ouais, bien, laissez-le tranquille, ce pauvre Vitinha, il n'est plus là.
Il joue beaucoup à Genoa, il a mis beaucoup de buts à la console.
Ah, d'accord. Udinese-Naples, aujourd'hui également, il y a eu un partout.
Oui, un partout. Les Napolitains avaient cru faire le plus dur avec le joli but de Victor Osimhen, le centré de Matteo Politano. 2 défenseurs sur les, ça ne l'empêche pas de marquer. 15e but de la saison pour le Nigérian, suivi par le Paris Saint-Germain et Chelsea. Les Napolitains vont se faire surprendre dans les tout derniers instants du match, à la 92e minute de jeu. La défense du Napoli qui craque. Et c'est Isaac Success, le bien nommé, qui égalise. À noter que Florian Thauvin, joueur de l'Udinese, était blessé pour cette rencontre, touché à la cuisse.
En Angleterre, Crystal Palace étrille Manchester United ce soir, 4-0.
Oui, cette défaite porte le sceau des Français de Crystal Palace. 12e minute de jeu, le festival de Michael Olise qui échappe à Amrabat et à Casemiro. Derrière, c'est facile, il progresse et trompe Onana. On voit, ça part de là. La frappe un petit peu chanceuse, un petit peu heureuse, mais parfaitement croisée.
C'est le réel, c'est le même.
C'est lui, il se fait encore avoir là sur le deuxième but signé d'un autre Français, Jean-Philippe Mateta, l'ancien Havrais. Du gauche, ça termine au fond. Et puis en deuxième période, eh bien encore un joli but. Encore Casemiro qui s'est fait avoir. Et c'est Michael Olise qui s'offre un doublé ce soir. Victoire 4-0 de Palace.
Manchester, c'est pire que Chelsea, là, Manchester United, non? Avec tout ce qu'ils dépensent aussi, là. Ça, incroyable, hein.
Et quand on voit l'équipe des heures, parce que je crois que Casemiro, il joue en défense centrale sur ce match-là. Mmh.
Oui.
Donc ça veut dire que où sont les autres? Enfin, ils mettent des centaines de millions d'euros à chaque mercato, et là, quand tu vois l'équipe de départ, elle n'a ni queue ni tête. C'est bizarre.
C'est Loïc Tanzi qui a écrit aujourd'hui sur le web que Jean-Claude Blanc allait s'occuper de la direction générale de Manchester United. Oui.
Par intérim.
De manière intérimaire.
Donc, par intérim. Ça va être une grande révolution l'été prochain. Entraîneurs, joueurs, ils vont tout changer. Ouais.
Canal ne sera pas le fossoyeur du football français, c'est la phrase du jour.
Oui, elle est signée Maxime Saada, le patron de Canal+, dans les colonnes du Figaro. Il confirme que sa chaîne n'ira pas sur la Ligue 1. Nous avons regagné un certain nombre de droits, comme la Première Ligue anglaise et la Champions League. Nous avons investi dans le MotoGP, renouvelé la Formule 1. Le golf est signé une nouvelle fois le top 14. La réalité, c'est que Canal+ a réinvesti les ressources historiquement disponibles pour la Ligue 1 dans d'autres droits et d'autres accords avec des plateformes comme Netflix, Disney+ ou Apple TV+. Il n'est pas question de racheter la Ligue 1 à la casse. Cela ne serait bon ni pour la compétition, ni pour les clubs. Je veux être très clair sur ce point. Canal+ ne sera pas le fossoyeur du football français.
Plus de Ligue 1 sur Canal la saison prochaine. Faut-il se faire une raison? Pardonnez-moi, c'est le débat du Minuit Info. Jingle. Quand on parle de droit télé et quand on a Étienne Moati, ben on le cuisine un petit peu. Étienne, vous êtes spécialiste de la question pour le journal de l'équipe. Alors, est-ce qu'il faut se faire une raison? Plus de Ligue 1 sur Canal la saison prochaine, puisqu'on a bien écouté le patron. Canal ne va pas négocier pour les prochains droits télé de la Ligue 1. Donc, c'est mort et enterré, Étienne. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre.
Ben non, mais dans ce qui a été relevé, il manquait quand même une phrase importante qui a été dite par Maxime Saada. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un achètera les droits de la Ligue 1, en l'occurrence, ça ne peut être que beIN Sport. Et là, nous aviserons. Ça veut dire que acheter directement les droits à la Ligue, ça, il n'en est pas question. Canal a dit et redit qu'il ne négocierait pas avec Vincent Labrune, avec les dirigeants de la Ligue. Après négocier avec celui qui a racheté les droits, en l'occurrence leur partenaire beIN Sport, ça, il n'exclut pas du tout.
Il y a un mois, la Ligue voulait faire revenir, et vous l'aviez écrit dans le journal de l'équipe, faire revenir Canal aux tables des négociations. C'est bien ça, vous plissez les yeux, mais c'est à peu près, il y a un mois à peu près. C'était le 8 avril. L'interview de Maxime Saada aujourd'hui, c'est une réponse justement à Vincent Labrune à la Ligue. Non, mais comptez pas sur nous pour revenir à la table des négociations.
Aussi. Non, ils n'ont jamais été à la table des négociations. Il n'y a aucune discussion entre la Ligue et Canal. Aujourd'hui, c'est beIN Sport qui essaie de monter donc, on va dire, une opération donc, en supportant eux-mêmes la majorité des frais pour acheter les droits de la Ligue 1. Mais ils discutent avec Canal d'un contrat de distribution qui puisse leur être favorable pour ne pas perdre trop d'argent. Et puis éventuellement de vendre aussi un ou deux matchs à Canal. Et ça semble encore être une possibilité.
Nous avons une infographie puisque Canal et Maxime Saada dans le Figaro dit bah, finalement nous on a beaucoup dépensé et on avait fait les comptes. Vous nous aviez d'ailleurs aidé pour cette infographie. Je vous remercie Étienne. Canal doit s'acquitter de 766 millions d'euros pour la saison prochaine avec tous les droits de droits sportifs. Voilà à peu près, on va dire, la douloureuse, l'addition. Bon, il n'y a pas le padel, il n'y a pas le golf, tout ça, mais c'est 766 millions d'euros. Canal n'a plus tellement la possibilité, on va dire, d'investir, même de racheter une sous-licence vendue par beIN Sport pour les 900 millions d'euros.
Ouais, Canal a pas les moyens d'être un acteur majeur sur les droits de la Ligue 1. Ils ont peut-être quand même encore un petit billet à mettre sur un match ou deux, ça me semble encore possible. Mais c'est vrai que le portefeuille de droits de Canal est assez volumineux et c'est vrai qu'ils n'ont pas grand risque parce qu'aujourd'hui, ils ont toutes les Coupes d'Europe sur les antennes de Canal pour les prochaines saisons. Ils ont tous les autres droits qui s'affichent ici. Et c'est vrai que, par exemple, pour ceux qui sont abonnés ici à Canal, est-ce que vous vous désabonneriez si Canal n'a plus la Ligue 1? Non.
Non.
Parce que vous avez encore la Ligue des Champions, toutes les Coupes d'Europe, la Ligue Europa Conférence, le rugby, la Formule 1, etc. Mmh. Donc c'est vrai qu'ils ont une forme de sécurité. Et donc là, il est sincère en disant ça, Maxime Saada. Donc il n'est pas dépendant des droits de la Ligue 1.
Mais enfin, ils sont quand même en concurrence avec les plateformes comme Amazon aujourd'hui ou Netflix ou d'autres plateformes. Aujourd'hui, de faire un investissement, on en parlait quand vous aviez invité Pierre Lescure, de faire un investissement stratégique pour que les droits de la Ligue 1 ne partent pas sur des plateformes. Faire beIN plus Canal ferait beaucoup de mal aussi à Amazon, à DAZN qui s'était positionné. La seule vraie offre, c'est DAZN qui est venu aujourd'hui.
Ce risque-là, immédiat, il n'existe pas puisque les discussions aujourd'hui, elles n'ont lieu qu'avec beIN Sport.
La première offre à 500 millions, c'est DAZN qui l'a formulée. Elle a été refusée.
Oui, mais DAZN, c'est
ils
pas
monteront plus a priori.
DAZN, c'est pas une plateforme type Netflix ou Apple, etc. Donc c'est vraiment.
C'est quand même incroyable la manière dont laquelle la Ligue s'est mise en position de faiblesse. Historiquement, tu me corriges, Étienne, si je me trompe, il y a toujours au moins deux candidats qui permettaient de faire monter la sauce et la somme. Là, on paye, on a l'impression qu'on va payer ad aeternam la boulette historique avec Mediapro. Je veux dire, aujourd'hui, qui a la main, c'est beIN. Alors, ça sera pour des raisons sportives, extra-sportives, diplomatiques, politiques. Ils vont sauver le football français. Mais franchement, les dirigeants de la Ligue, ils ont...
Ils ont fait n'importe quoi. Moi, je suis un nostalgique, et avec tout le respect que j'ai pour Beansport, bien sûr, mais quand même, le mariage qui a fonctionné pendant très longtemps entre la Ligue 1 et Canal+, on avait la messe du dimanche, Canal Football Club, il y avait une exposition quand même de la Ligue 1 sur une chaîne française qui faisait vivre toute la semaine, entre les matchs, il y avait un savoir-faire, on a révolutionné la façon de retransmettre des matchs de télévision grâce à Canal+, etc. Et du jour au lendemain...
Le téléspectateur s'y retrouvait aujourd'hui.
Et du jour au lendemain, on a balayé tout ça, et le dindon de la farce, c'est aujourd'hui quand même le téléspectateur, parce que pour regarder la Ligue 1, tu vas t'abonner sur un truc, pour t'abonner sur l'autre, etc. etc. Moi, je regrette vraiment cette période-là. Quoi.
On est le 6 mai, ouais. Toujours pas de diffuseur pour le prochain championnat. Ça va se dérouler quand ça, vous en savez quelque chose, Étienne? On continue là dans le flou plus total?
Je pense avant le redémarrage de la saison prochaine.
Ah, merci de...
Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que... La Ligue pense que beIN Sport a donné quand même une sorte de garantie qu'ils seront là. Donc on pourra compter sur eux. Et après, il reste à savoir exactement dans quelles conditions. Financière, pas complètement. En tout cas, il y a l'idée qu'il y a la possibilité de mettre autour de 700 millions d'euros par an sur les droits de la Ligue 1, qui semble être nécessaire pour faire vivre les clubs français. Donc du côté de la Ligue, beIN ne le contredit pas, il y a l'idée que ça va se faire. Okay. Mais après, exactement dans quelles conditions, à quel moment, avec quel partenaire, avec quel contrat de distribution...
Vincent Labrune était à Dortmund, il sera au Parc demain.
Ok, très bien. Georges Mikotadze exclu ce week-end contre Rennes. Une information.
Ah, tu fais l'impasse complète sur César?
Non, on va commencer.
Non,
on continue.
Hein, César, il arrive à un moment.
Il arrive, ne vous inquiétez pas. César Luis Menotti, ne vous inquiétez pas.
Tu vas avoir ton moment, mon Didier.
Georges Mikotadze, exclu ce week-end contre Rennes, une information ce soir.
Oui, l'issue devrait être favorable pour le numéro 10 messin, meilleur buteur du club avec 12 buts en Ligue 1 depuis son retour cet hiver. C'est Bertrand Latour qui l'a révélé ce lundi dans l'équipe de choc. Je vous propose d'écouter.
Le club veut faire annuler son carton rouge et le club va avoir gain de cause puisque c'était l'enjeu, c'était de savoir si l'arbitre Rudy Buquet avait consigné dans son rapport d'après-match s'il maintenait ou non la décision qu'il avait prise sur Mikotadze. Et la polémique a enflé notamment puisqu'il a adressé un carton rouge, il est allé voir les images et après visionnage de la vidéo, il avait maintenu son carton rouge et ce qu'il a annulé dans son rapport. Donc il y a une commission de discipline demain pour Georges Mikotadze et Georges Mikotadze va pouvoir disputer la rencontre de samedi contre Strasbourg et c'est un élément d'autant plus important qu'il a marqué 12 buts en 18 matchs. Donc Rudy Buquet est revenu sur sa décision prise deux fois sur la pelouse de Saint-Symphorien. Donc je pense que les supporters messins seront ravis.
Du changement au poste de président de l'INECATEF, le syndicat des entraîneurs.
Oui, Raymond Domenech n'est plus le président du syndicat des entraîneurs. C'est la liste d'opposition qu'il a emportée, emmenée par Claude Leroy, Jacques Bonnevet et Philippe Montagnier. Bertrand Rezeau, l'ancien directeur des centres de formation du Paris Saint-Germain et de Monaco, a été nommé président.
C'est une présidence tournante.
Oui, c'est comme ça que ça nous est annoncé.
Donc c'est Bertrand Rezeau le mardi.
Sur des périodes un peu plus longues, ne vous moquez pas.
Quand tu gagnes un tournoi de 6, quand t'es petit, t'as le droit à la coupe une semaine, et puis après il faut que tu la ramènes, tout ça et tout.
Donc c'est quoi tournant comme le tournoi de la presse sur un trimestre
sur une plus longue période, mais je pense que c'est pour montrer que c'est une équipe qui a gagné et que c'était pas quelqu'un contre Raymond Domenech.
Ok. La disparition de César Luis Menotti, Didier, le sélectionneur de l'Argentine, champion du monde en 1978 avec des réactions qui continuent tout le temps.
Oui, notamment celle de Lionel Messi. C'est via son compte Instagram que le champion du monde argentin s'est exprimé. Nous avons perdu l'une des grandes références de notre football. Mes condoléances à sa famille et ses proches. Reposez en paix. Pour rappel, c'est un homme qui avait notamment inspiré Marcelo Bielsa et Pep Guardiola.
Didier évoquait la mémoire de César Luis Menotti. C'est aussi évoqué, on va dire, les deux pôles du football argentin. Il y a, on va dire, l'école Menotti.
Oui.
Et donc champion du monde en 78 et l'école Bilardo en 1986. Il y a quoi? Il y a les romantiques contre les scientifiques, les pragmatiques.
Des courants de pensée qui peuvent exister que dans ces pays-là, quoi. En France, tu l'imagines mal. Il y a les ménotistes. Voilà, ça va plus loin que du football. C'est un art de vivre aussi parce que Menotti a poussé le football au rang d'art. Et Bilardo, c'est plus la fin justifie les moyens, quoi. Donc il y a aussi les bilardistes. Mais Voilà, c'est deux courants de pensée. Tu peux pas être les deux. Tu es l'un ou tu es l'autre.
Mais on l'a, nous, en France, on l'a eu, mais de manière, on va dire, un peu disparate. Si je vous dis Deschamps Hidalgo, Jacquet Hidalgo.
En France, tu suis le vainqueur, entre guillemets, et tu intellectualises beaucoup moins le foot. En Argentine, tous les intellectuels. Quand je te parlais de culture, tous les artistes, les romanciers, les acteurs, les ceux-là, ils ont tous une idée bien établie sur le football. Alors, ils ont tous leur club, c'est une chose évidente, mais ils sont capables de te parler de football. Là, récemment, j'ai appris que la semaine dernière, par exemple, le ministre de l'économie a fait un tweet en se plaignant des changements beaucoup trop tardifs de Demichelis, l'entraîneur de River Plate, parce que c'est un supporter de River, si tu veux, tu vois. Bon, alors ça va un petit peu loin, mais
t'imagines.
Mais alors parce qu'on parlait et puis d'autres ou des choses comme ça. Mais en France, il y a des gens, mais c'est surtout au niveau de la presse, qui disent Deschamps, c'est quand même pas très spectaculaire, c'est ceci cela. D'autres, toujours au niveau de la presse, qui véhicule. Donc, oui, mais c'est quand même important, il gagne, il est pragmatique, il est ceci, cela. Non, je discute pas. Ouais. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas sans aller jusqu'à ministre, il n'y a pas d'acteurs, si tu veux, ou il n'y a pas de gens, mais qui t'expliquerait par A plus B et que je n'aime pas les trucs. On suivra en France toujours le vainqueur, si tu veux. En Argentine aussi, d'une manière générale. Mais en France, tout est vu par le prisme du résultat. Mmh. Et c'est la presse qui fait des débats.
Non, mais tu trouves pas que la remarque de Mémé était quand même avec du sens par rapport à Michel Hidalgo? C'est vrai qu'il y a eu une période où il y a eu ce romantisme-là qui arrivait. Il y avait comme deux écoles. C'est-à-dire qu'on venait faire un football donc vivant, créatif, humain, etc.
Le romantisme.
Représenté par Hidalgo, qui avait cette humanité-là. Et qui venait contre l'établissement de cette époque.
Et les gens aimaient ça, d'une manière générale. Mais tu avais aussi des résultats et ça gagnait. Aujourd'hui, si tu as un Hidalgo... En plus, les entraîneurs, si tu veux, eux-mêmes en Argentine, ils prennent position de manière radicale. En France, aucun entraîneur ne va parler d'un autre entraîneur. Tu vois les conférences de presse, tu veux surtout pas déranger. Menotti par rapport à Bilardo, c'est deux grands entraîneurs et c'est des sélectionneurs qui ont gagné la Coupe du Monde. Ils vont se chambrer entre guillemets, mais même ça peut être violent si tu veux. Menotti, il va te dire parce que Bilardo a fait des études de médecine et chaque fois Menotti dit remercions le football qui a éloigné Bilardo de la médecine. Jamais un sélectionneur français ou truc d'un autre qui a été champion du monde ou pas.
En même temps, Bilardo, c'est celui aussi qui a fait gagner Maradona
en 86.
Alors que Menotti n'a pas pris Maradona pour la Coupe du Monde 78.
Oui, mais il était trop jeune, Maradona.
Il était déjà en situation de pouvoir être pris.
Il avait 2 ans de professionnalisme et il avait 17 ans. Et crois-moi, en Argentine, ce débat est ressorti qu'après Maradona a tout écrasé, si tu veux, et relativement rapidement. Mais en Argentine, c'était pas un vrai débat. Tout le monde suivait.
Et l'année d'après, il est champion du monde de Maradona.
79 à Tokyo, junior. Avec les moins de 20 ans, junior.
Mais ce qu'il faut rappeler quand même sur Menotti, pour nos jeunes téléspectateurs, c'est que c'est quand même le témoin aussi d'une époque en Argentine extrêmement troublée, avec le coup d'État.
Sous la dictature, oui, mais en 76. Oui.
Non, mais il
est communiste.
Lui, c'est un homme de gauche.
C'est un coup d'État de 76, donc 2 ans avant le début de la Coupe du Monde. C'est un homme de gauche, qui avait des convictions, qui avait un certain humanisme.
Son père était communiste.
Et qui entraînait une équipe pendant que Nolwenn Delah...
800 mètres du stade de River Plate, le stade mécanique et marine, machin.
De gauche, je veux dire. Se faisait torturer. Il y a ce romantisme-là, parce qu'il y a cette histoire-là aussi de l'Argentine, c'est moins prégnant avec Bilardo.
Maradona, c'est le football romantique, mais Maradona, lui, il est pour Bilardo. C'est drôle, hein? Non, parce que non, oui. mais tout est.
Après,
non, on essaie de mettre les choses dans les cases.
Parce qu'il n'a pas été pris par Menotti.
Non, mais il a travaillé en Barcelone en 82.
Il l'a eu en 82. C'est lui qui est sélectionneur Menotti quand il est champion du monde à Tokyo. Mais à un moment, il ne se parlait plus et Maradona lui en voulait, bon, etc. Mais pas que pour ça. Parce que là-bas, effectivement, les gens prennent position et ça peut aller loin. Mais pour le départ de Menotti, même le président de la République, Milei, là, qui est bilardiste, et on se doute bien pourquoi, il a dit « je suis bilardiste à 1000%, mais je sais ». Parce que Menotti aussi, Il a sauvé le football argentin qui, après la Coupe du Monde 74, qui avait été désastreuse, match nul contre Haïti ou des tas de machins, il a pris la sélection et il l'a structuré, au-delà d'en faire l'équipe qui allait être championne du monde, si tu veux, il a restructuré tout le football argentin. Il faut savoir qu'à 80 ans, ils l'ont rappelé pour être responsable des sélections. Et c'est lui qui a mis d'ailleurs Scaloni. Et quand Scaloni était discuté, parce que bon, il avait entraîné que des espoirs ou des choses comme ça, c'est lui qui l'a maintenu et tout ça. Mais c'est un philosophe. Là-bas, on te parle football. Ici, quand tu vois un acteur ou machin qui te parle football, prenons Bernard Pivot, par exemple, peu cher, et on lui rend hommage, puisque tout ce qu'il a fait, machin. C'était un passionné de football. Ouais. Il aimait beaucoup Saint-Etienne, il aimait.
Bon, il a commenté les matchs de foot.
Il a commenté. Mais. Il ne pouvait pas te prendre position sur le football d'une manière ou d'une autre.
Idéologique.
Et voilà, il aimait le football, basta, quoi. Il n'a pas fait un tweet en disant il met beaucoup trop de temps pour faire ses remplacements.
Et dernier truc, il était aussi un peu transgressif, Benotti, parce que quand il organisait la Coupe du Monde en 78, que bon, c'est l'Argentine, contexte politique, obligation pour Menotti de gagner, il fait un truc contre l'avis des militaires, d'aller chercher des Argentins hors du pays.
Un seul.
Deux. Il va chercher
Kempes,
ouais, à Valence et Osvaldo Piazza à Saint-Etienne.
Oui, mais Piazza ne l'a fait pas. Oui.
Ils viennent. C'est pour ça. Les militaires disent non, on ne veut que des gens de locaux. Oui. Finalement, Piazza vient, Kempes vient, et Kempes fait gagner la Coupe du Monde à l'Argentine. Et le pauvre Osvaldo,
non, peu cher. Sa femme avait eu un grave accident, il a préféré rester à son chevet.
Dans un camp militaire, il s'entraîne pendant un mois. Et puis, entre les deux, il avait deux petites filles, Osvaldo. Et avec sa femme, il dit tu iras pendant la Coupe du Monde, parce que c'est parti pour des mois. Tu iras dans le sud de la France et au pays d'Avignon, elle a eu un très grave accident. Une de ses deux filles et sa femme se sont trouvées hospitalisées dans le coma. Il a demandé à Menotti, et alors que là, il ne voulait pas le laisser ressortir du pays, et Osvaldo a demandé à Menotti, laissez-moi partir aller au chevet de ma famille. Menotti, il a donné
après, ça,
et Osvaldo n'a
l'histoire de la dictature, ça a eu un double effet aussi, parce qu'il y a des gens qui disaient il sait très bien ce qui se passe, c'est des gens qui se font torturer et tout. Les joueurs, il les avait mis dans une bulle. Et ils lui ont reproché d'ailleurs aussi un petit peu. Il y a qu'un joueur qui a arrêté la sélection, qui était le capitaine avant Passarella, deux ans avant. Et il a arrêté par rapport à la dictature. Et des gens disent, bon, il est de gauche. Mais cela dit, il avait donné sa démission à un moment qui a été refusée parce que, mais il voyait ça d'un mauvais œil. Évidemment, un gars de gauche, mais enfin, s'il gagne pas la Coupe du Monde, bon, il est obligé de s'exiler. Mais c'est une romance, quoi. Tu vois, il y a un bon.
Après, ils étaient pas Carfontaine, hein. Ils étaient dans un camp militaire. Hein,
ah bah oui. Mais ils s'arrangeaient pour que les militaires voient jamais les joueurs de
manière. Et que les joueurs
les voient pas trop. Je pense qu'il y avait le général Lacoste qui était l'un des pires, qui faisait partie du comité de direction de la Coupe du Monde quand même. Et je te dis, là où les gens se faisaient torturer, c'était à 800 mètres du stade de River Plate. Mais c'était le côté ambigu de la chose, c'est de faire plaisir aussi au peuple d'un côté. Enfin, je parle pour
le Tour d'Italie, la troisième étape à Priori qui était réservée aux sprinteurs.
Ça t'intéresse pas alors tout ça? Non, je te taque.
On a failli assister à une surprise, effectivement. Ce que troisième de la première étape, vainqueur de la deuxième et dynamiteur dans les derniers kilomètres de cette troisième étape, Tadej Pogacar est vraiment l'homme de ce début de Giro. Il a essayé avec Geraint Thomas et Michael Honoré de fausser compagnie au peloton dans les derniers mètres de la course. L'opération a finalement échoué à une centaine de mètres de l'arrivée. Sur ce sprint massif, c'est le Belge Tim Merlier sur la gauche de votre écran qui devance d'un boyau Jonathan Milan. Huitième victoire de la saison pour le Belge. Au général, Pogacar est toujours leader ce mardi. Quatrième étape longue de 190 km. Et ça pourrait sourire au puncher.
Enfin, une journée importante pour le golf français, puisqu'un Français est nouveau dans le top 20 mondial.
Ce Français, c'est Mathieu Pavon, fils de l'ancien footballeur bordelais Michel Pavon. Mathieu Pavon est désormais 20e mondial. C'est une énorme performance, hein, car un seul Français a déjà réussi Paris Performance. C'était Victor Dubuisson en 2015. On se souvient qu'au Masters, Mathieu Pavon avait terminé 12e du plus grand tournoi du monde.
Mathieu Pavon, c'est sa capacité de travail qui vous impressionne, Guillaume Dufy.
Oui, parce que quand on parle aux gens qui l'ont côtoyé plus jeune, c'était pas le plus doué, mais un bosseur énorme, psychologiquement très costaud, qui ressemble quand même beaucoup à son papa aussi, parce que
Michel,
c'était pas le plus doué, mais c'était un type, un bosseur, un travailleur, un type intelligent,
hargneux,
un leader, comment ?
Hargneux
aussi.
Je sais rien.
Et Mathieu Pavon, aujourd'hui, c'est le meilleur Français. Il met tout de son côté pour le rester, pour aller encore plus haut, parce qu'il ne veut pas s'arrêter là. Okay. Et je pense qu'il a les moyens
physiques, mentaux et golfiques pour atteindre les sommets du golf mondial.
Ah ben, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Guillaume. Mbappé dernière. Dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes, en Ligue des Champions. Ce sera demain, Paris Saint-Germain, Dortmund. Mbappé, c'est 7 saisons.
Sous le maillot du PSG.
Et oui.
Il peut y avoir des PSG Real dans le futur.
Mbappé, c'est 7 saisons à Paris.
Il y aura.
305 matchs joués. Le bilan de Mbappé au Paris Saint-Germain se joue-t-il sur ce match? Non, vous m'avez répondu, mon cher Bernard. Après la finale, on en reparle.
Ah bah oui, bah, j'ai l'impression que c'est son dernier match, c'est au revoir, adieu et merci pour tout. Non, non, il reste encore plusieurs matchs. Il reste, on espère pour lui, deux finales, la finale de la Coupe de France et la finale avec des champions. Il a toujours eu dans sa tête cette idée qu'il y a Mbappé de partir en s'ouvrant la coupe aux grandes oreilles, ouais. En la laissant sur le bureau du président Nasser Al-Khelaïfi, il dit au revoir et merci. Et je pense qu'il poursuit toujours son rêve.
Au revoir président, et en dansant déguisé en canard,
mais pas tout
ou en poussin, voilà.
Ouais. Non, mais vous voyez trop de publicité, vous.
Oui, c'est toujours d'actualité. Donc pour moi, c'est pas son dernier match. Et...
Oui, mais certains disent, bah non, mais de toute façon, ce match-là, ça compte pas pour faire un bilan. Là, il y aura donc deux matchs en Ligue des Champions, on lui souhaite. Le bilan est déjà fait, non? C'est ça, non?
Ça veut rien dire, ce match, par rapport à ce qu'il a fait depuis qu'il est là. Pour moi, rien dire. Demain, il peut mettre un quadruplé ou être ridicule sur le terrain. Ça ne changera pas ce qu'a fait lui au PSG, ce qu'il a produit au PSG. On lui souhaite d'être bon, on lui souhaite d'aller en finale, on lui souhaite de gagner la Ligue des Champions, de la poser sur le bureau et de retrouver le club qui en a gagné 14. Mais ça sera pas, il sera pas. Enfin, je vois pas pourquoi on le jugerait sur sa prestation.
Vous pensez que si demain
ça pas de sens.
Il passe pas, ah ben il non, mais... son match, son bilan à Paris sera mauvais.
Remis en question.
Remis en question. C'est rude quand même.
Pardonnez-moi, mais en 2021, lorsqu'il prolonge. Au moment où il prolonge, je veux prolonger, il le dit, pour offrir à Paris sa première.
Eh ben, c'est toujours d'actualité.
C'est toujours en cours.
Je suis d'accord avec Yvan et avec Guillaume. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui est déterminant pour juger ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, parce qu'il a fait quand même énormément de choses, on l'oublie. En revanche, il a une occasion en or de marquer. De marquer vraiment l'histoire de ce club, de marquer le football français, de marquer le football français de club, parce que il joue et il a été mauvais au match aller. On jouait quand même une demi-finale de Ligue des Champions et c'est sa dernière saison au Paris Saint-Germain et il est passé au travers. Donc c'est vrai que tout le monde l'attend quand même pour le match retour.
Je comprends pas. Etienne.
Donc ça veut dire que
demain Paris perd. Ouais. Il est bon, pas bon, tout ça, mais en tout cas Paris perd.
Ouais.
Ok. Demain, autre scénario. Mbappé est bon, Paris gagne, ils sont qualifiés pour la finale et espérons comme ça, boum, hop, la Ligue des Champions.
Mais c'est statistique.
Là pour le bilan, c'est extraordinaire.
Mais je suis d'accord avec le présentateur. C'est-à-dire pour ces statistiques, elles sont énormes et donc évidemment, on ne peut pas uniquement le juger sur le dernier match ou l'avant-dernier match qu'il va faire au Paris Saint-Germain. Mais en revanche, il a quand même une occasion incroyable de marquer le football français, de marquer le Paris Saint-Germain.
Mais c'est le bilan. Mais c'est parce qu'il
c'est vrai que ça relativise un peu.
Mais c'est
donc
le bilan, c'est parce qu'il a cette occasion unique, si tu veux, et qu'on attend beaucoup de lui par rapport à son statut, son talent.
Il l'a déjà eu, l'occasion.
Ce que tu veux, pardon.
Il l'a déjà eu l'occasion. De disputer la finale de Ligue des Champions.
Oui, et ça s'est pas bien passé. Je veux dire, ils ont perdu. Mais c'est la dernière qui lui reste, et elle est d'autant plus fantastique qu'il y a un concours de circonstances, de tirage au sort, de ceci. Mais ça, c'est le sport, ça survit au PSG, et tant mieux pour eux. Mais suppose que demain, il rate son match. Il a le droit de rater son match. Je veux dire, il y a truc, Cruyff a raté la finale de la Coupe du Monde de 74, si tu veux. Tu vois, bon, même s'il avait fait des matchs. Bon, bref.
Et il en ratera d'autres.
Bon. Il rate son match et le PSG est éliminé. Il rate son match et le PSG est qualifié. Il a la finale, si tu veux. Et la finale, après, tu regardes pas qui était bon, qui était pas bon. Si tu la gagnes, alors tu oublies tout. Mais je comprends ce que veut dire Mémé. Il rate son match et tu attends beaucoup de lui pour ce match. Et le PSG est éliminé. Alors, ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait au PSG, mais du coup, pour moi...
Tu rates ta sortie.
Non, tu rates ta sortie, mais comme c'est un joueur qui ne dégage pas beaucoup d'émotion,
Il les dégage peut-être footballistiquement parlant, mais pas humainement parlant.
Et il y a pas des relations avec les journalistes.
Non, pas la relation avec les journalistes. Tu sais,
avec les supporters.
Tu sais, il y a des. Oui, non, mais il y a des joueurs que tu connais pas, à qui tu as jamais parlé, que tu vois même à la télé, pas sur des stades et tout, et ils dégagent quelque chose. Ouais. Et Mbappé, il y a un côté un peu métallique,
froid,
un peu, tu vois. Bim, si.
Ce que tu dis, je pense que c'est aussi ce que lui-même dit, c'est je suis là, on va gagner.
D'accord, il faut qu'il gagne. Pour terminer, je pense que si ça se passe mal demain et que le PSG est éliminé, ça sera peut-être injuste, il n'arrivera pas dans le cœur des gens comme ont pu l'être Rai, Paoletta, même Pastore avec ses bolets en carbone ou Cavani ou des choses comme ça. Et ça serait quand même dommage. Voilà.
Paris Saint-Germain.
Je pense que c'est ce que tu voulais dire.
Bah oui. Oui. Paris Saint-Germain d'Orpo.
Tu l'as dit tellement mieux.
Ouais. Paris Saint-Germain d'Orpo.
Non mais vous comprenez rien.
On aura trois questions pour une finale dans quelques minutes. À tout de suite. Dernière ligne droite de l'équipe du soir, en compagnie de tous nos amis. On va tout de suite du côté du quotidien l'équipe pour voir la une de demain.
C'est sur ce choc face à Dortmund avec le Paris Saint-Germain à cœur et à cri, avec ce trio en une, Mbappé, Dembélé et Barcola.
Trois.
Il n'y a pas Ramos.
Trois questions pour une finale. Alors, Lucas Hernandez blessé au match aller, forfait, fin de saison. J'ai trois joueurs qui sont susceptibles de remplacer Lucas Hernandez. J'ai du Danilo, du Beraldo ou du Skriniar. Quel est le meilleur choix pour éteindre Fulkrug? Alors, j'ai trois Danilo, Yvan, Bernard et Étienne. Et j'ai un Beraldo.
J'ai changé depuis.
Ah, vous avez changé?
Ouais, j'ai réfléchi.
Ah ben, Bernard, alors, vous me dites Beraldo, Danilo, Skriniar, Moukele. Vous pouvez y aller.
J'ai réfléchi en venant en métro. J'avais le temps, parce que je viens de loin. Ouais. Je me suis rappelé quand même que Luis Enrique avait répondu à la question, parce que quand Hernandez s'est blessé,
il a fait rentrer Beraldo.
Et Beraldo, c'est quand même le seul gaucher dans les centraux disponibles.
Donc Beraldo.
La question, c'est quoi le mieux pour PSG? Ou qui va faire jouer Luis Enrique?
C'est deux questions différentes.
Quel est le meilleur choix pour éteindre Fulkrug?
Danilo, Fulkrug, c'est pas un joueur rapide, c'est un joueur de duel. Danilo a l'expérience. Beraldo, ça tremble souvent, mais il est gaucher, il est brésilien, très bien. Enfin, plus ça va, moins ça va, Beraldo. Et Skriniar, t'es blessé, c'est lent. Il est en difficulté, Skriniar, malheureusement. Donc le choix le plus sûr, le plus logique, paraît.
Giovanni Castaldi est dans la place, il nous attend non pas devant le Parc des Princes, car le match est à domicile. Giovanni, on n'est pas sadique, vous êtes chez vous, tranquillement, dans votre propriété très privée, exactement. Et...
C'est grand.
Danilo, Beraldo.
Sudette, quoi.
Luis Enrique a répondu à la question, nous dit Bernard Lyons, puisqu'il avait déjà remplacé Lucas Hernandez par Beraldo. Est-ce qu'il faut comprendre ça? Est-ce que les informations, les tendances qui vous reviennent, c'est ça, c'est Beraldo?
Les toilettes derrière. Bonsoir à tous. Non, c'est tout petit, Guillaume. Chez moi, j'ai une modeste demeure. Pour ce qui est du choix de Luis Enrique, alors c'est difficile parfois de lire le Luis Enrique. L'entrée de Beraldo, elle ne fait pas forcément un gage de place de titulaire, c'est plus l'affection que porte l'Espagnol pour le défenseur brésilien qui fait que la tendance actuelle, ce serait vraiment que Beraldo débute. Moi, je pense personnellement que ce serait mieux Danilo parce que cette équipe du Paris Saint-Germain a un déficit de taille, que cette équipe du Borussia Dortmund a beaucoup de joueurs très très bons de la tête et que Beraldo, là je rejoins Yvan, notamment sur le match aller de la Ligue des Champions, sur un attaquant qui est capable de fixer, qui est très fort dans les duels, qui était Robert Lewandowski, qui est d'ailleurs bien meilleur que Fulkrug, il n'y a pas de souci là-dessus. Beraldo a été en énorme difficulté. Maintenant, si vous me demandez ce que va faire Luis Enrique, il y a un net avantage pour le Brésilien.
Sur zone de duel, vaut mieux avoir un Danilo qu'un Beraldo. C'est à peu près ça. Didier, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Hein, Beraldo. Face à Danilo.
Les deux sont un petit peu lents quand même. Après, c'est vrai qu'il a une masse quand même, Danilo. Beraldo, moi, il me fait peur sur les derniers matchs. Je l'ai vu à Montpellier, je l'ai vu en équipe nationale contre l'Espagne. Tu vois, je trouve que non.
Mais Danilo, alors, c'est un match de haut niveau. Hein, et je crois qu'il faut être... Visiblement, les entraîneurs aiment bien avoir des joueurs à 100% pour ce match à haut niveau. Vous avez vu les derniers matchs de Danilo? Il a joué quand pour la dernière fois 90 minutes?
Je sais pas.
Franchement, je suis pas sûr qu'il ait le rythme nécessaire.
Beraldo, les
matchs de Beraldo, ils sont très inquiétants. Et là, Yvan a raison. C'est vrai, plus ça va, moins ça va quand même, Beraldo. Ouais. Et je trouve qu'en plus, au niveau mental, sur un match comme ça, je crois qu'il offre quand même énormément de garanties.
Mais la dernière fois qu'il a joué, Danilo,
c'était contre Le Havre.
Ouais.
C'était contre Le Havre.
Donc il y a 15 jours.
Ouais, il y a 15 jours.
Il n'a pas laissé un souvenir impérissable, me semble-t-il.
Et on parle de la défense. Moi, il y en a un qui m'a inquiété. C'est au match aller, c'est Nuno Mendes. Il y a un gros doute. Il va se coltiner à un gars qui est en forme, c'est Jadon Sancho. Nuno Mendes, vous avez des retours. Il a fini, on va dire, la mise en place. Ce n'était pas le cas, je crois. Il avait été un peu ménagé au Signal Park. Est-ce que là, il a bien fini la séance, notre Portugais, la latérale?
Bah, le gros souci, mes mecs, Nuno Mendes, c'est que déjà, lorsqu'on était en Allemagne, bon, évidemment, on a tous eu les mêmes retours sur l'inquiétude autour de Nuno Mendes, parce qu'il n'avait pas terminé la séance, il y avait une discussion avec le staff médical. Ça arrive de rater un match, il y a des joueurs qui ratent des matchs, il n'y a pas de souci, mais très clairement, vu du stade, on a tous senti qu'il y avait un problème avec le latéral gauche portugais. Il n'avait pas la dimension athlétique qu'il a d'habitude. Les retours qu'on a, c'est que il va bien, que voilà, il faut prendre son temps, il faut faire attention avec Nuno Mendes, parce que c'est un joueur qui revient d'une longue blessure, mais on ne pourra pas nous faire croire que c'est un joueur qui est à 100% et que la blessure de Lucas Hernandez, de toute façon, ça règle le problème. Il va débuter demain, après dans quel état, et l'état de forme de Nuno Mendes influe aussi les choix de devant, puisque se priver de Barcola sur le côté gauche qui défend énormément, si Nuno Mendes n'est pas à 100% pour faire débuter Ramos dans l'axe et mettre Mbappé sur le côté gauche, je pense que ça fait partie des éléments de réflexion de Luis Enrique, parce qu'en tout cas, si nous, on ne veut pas nous dire qu'il y a un problème avec Nuno Mendes, lui doit bien sentir son joueur et pas à 100%, ça c'est une certitude.
Giovanni, on va passer au milieu. Alors, il y a soit Fabian Ruiz avec le milieu qu'on connaît, Vitinha, Zaïre Emery, mais on avait Kangingli à un moment, il y a hier ou avant-hier, sa cote montait. Et puis, je crois, plus on se rapproche du match, plus Manuel Ugarte aussi a le vent en poupe. C'est à peu près ça, c'est les réflexions également pour son troisième milieu. C'est ça qui vous revient, mon cher Giovanni, ou pas?
Bah, là, pour le coup, c'est les confrères du journal. Vous pouvez d'ailleurs le lire sur l'équipe.fr. Il y a eu quelques mises en place qui ont été faites. Enfin, c'est plutôt sur les jeux, les exercices, les équipes qui se sont mixées. Et c'est vrai qu'il y avait une compo d'équipe où Vitinha montait d'un cran. Et devant la défense, pouvait y avoir Manuel Ugarte beaucoup plus que Kangingli, qui, s'y rende, devrait possiblement évoluer sur un côté. Là, encore une fois, ça serait vraiment déroutant de voir Luis Enrique changer son milieu de terrain. Tant Manuel Ugarte, au fil de la saison, et notamment en Ligue des Champions, a eu très peu de temps de jeu, a été très bon. C'est un peu bizarre de dire ça pour un footballeur, mais à 60 millions d'euros, c'est quand même un joueur qui a vraiment du mal lorsqu'il doit avoir le ballon et qui a du mal sur les relances. Quand on sait ce que veut faire Luis Enrique, ça me paraît risqué, ambitieux comme choix sur un joueur qui n'a pas de confiance, en fait, qui a vraiment le moral dans les chaussettes, Manuel Ugarte, parce qu'il ne joue plus, et quand il joue, il n'est pas bon.
Qui doit débuter au milieu de terrain? Vous ne touchez à rien, Guillaume. Vous mettez toujours les trois, vous mettez Vitinha, vous mettez Zaïre Emery, vous mettez Ruiz.
Ouais, et après, j'essaie de demander à ces trois milieux d'être assez compacts, de protéger peut-être un peu mieux les deux latéraux parisiens qui, s'ils ont des qualités offensives indéniables, ne savent absolument pas défendre. Et là, ils ont quand même en face d'eux deux véritables ailiers un peu à l'ancienne. Sancho à droite, qui a été formidable, qui a touché plus de 100 ballons pour un ailier. C'est quand même assez exceptionnel. Et Adeyemi
Adeyemi à gauche a été ménagé aujourd'hui à l'entraînement.
Oui, j'ai entendu. Mais moi, je trouve qu'on reproche beaucoup au milieu offensif, aux attaquants parisiens, à Mbappé, Dembélé ou Barcola, de pas forcément venir faire les efforts nécessaires pour aider les latéraux. Mais très franchement, il faudrait que les latéraux aussi comprennent que leur véritable premier job, c'est de défendre. Et Nuno Mendes en un contre un, et Hakimi, moi je trouve que c'est à ce niveau-là, je trouve que c'est très grave.
Voilà. Quand ils l'ont acheté, tu savais que Nuno Mendes ne défendait pas. Tu ne l'as pas découvert au Paris Saint-Germain.
Mais je savais très bien.
Ouais,
Nuno Mendes, il commençait à faire des progrès défensifs. Là, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Et là, c'est le déficit physique qu'il avait.
Moi, je trouve que l'explosivité, il rattrapait des coups.
Oui, si tu rattrapes des coups, ça veut dire que tu défends très bien.
Est-ce que tu peux me citer,
placer son corps.
Tu peux me citer beaucoup de défenseurs latéraux qui ont un jeu défensif très, très fort aujourd'hui.
Ferland Mendy
au Real Madrid, c'est moi je trouve parfait.
Non, mais, comme le dit souvent Angelo, c'est un défaut qu'ont beaucoup d'équipes de manquer de latéraux. Non, mais là, on parle des grosses équipes.
Carvajal, pour le passé, c'est l'enfer.
Forcément, il apporte rien, mais derrière, c'est un
Kimmich, il est quand même difficile à passer.
Qui doit débuter au milieu? Bernard nous disait, tout dépend de l'animation offensive. L'animation offensive, Giovanni Castaldi. Donc, est-ce qu'on garde Barcola, Mbappé, Dembélé? Ou alors, est-ce que Luis Enrique nous prépare un truc?
Non, je pense que pour l'attaque, il n'y aura pas, de surprise et que Barcola, pour des raisons également d'équilibre, devrait débuter. Dembélé côté droit, là, il n'y a aucun doute. Et Mbappé, pareil. Ce qu'il faudrait que Luis Enrique change, même s'il ne veut pas nous répondre en conférence de presse et qu'il n'est pas content quand il nous pose ces questions-là, c'est le choix des entrants. Parce que moi, que Gonçalo Ramos ne débute pas la rencontre, je le comprends. Je veux dire, le match référence du PSG cette saison, même si c'est en infériorité numérique, quoi qu'on en dise, c'est ce match à Barcelone. En revanche, qu'à la 60e minute de jeu, à la place de Colomoigny, qui est à l'envers et qui a vraiment un niveau catastrophique depuis le mois de janvier avec le Paris Saint-Germain, ne rentre pas, ça me paraît logique. Mais sur le départ, je pense que ce trio-là, il faut pas y toucher, et c'est pas le sens de l'histoire que Luis Enrique le change. Quand on sait l'affection qu'il a pour Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, et Mbappé sur les gros matchs, on l'a bien compris, sur la gestion, il est intouchable.
Bernard, vous pouvez abattre votre dernière carte. Vous, à mon avis, en numéro 9, vous vouliez avoir un vrai spécialiste du poste, Gonzalo Ramos.
Alors, c'est vrai que le match de référence, mais c'était à Montjuïc, c'était à l'extérieur. Grosse partie du match quand même à 11 contre 10. Mmh. Après, c'est une question d'équipe. Là où ça force un peu, mais c'est la télévision et tu l'as fait très bien, c'est de dire on prend par ligne. Non. J'entends les arguments de Giovanni. Effectivement, Barcola à gauche, il a cette capacité à plus défendre. Mais là, tu peux imaginer que la physionomie du match sera différente. Je rappelle quand même que tu es dans l'obligation de marquer. Mmh. Et que moi, avoir joué Ramos sur tout ce qu'il a montré avec un vrai point de fixation dans l'axe et mettre à côté Mbappé sur la gauche, on le sent quand même plus à l'aise à gauche que dans l'axe. Et ça, c'est vu lors du match aller. Ça ne me paraît pas complètement surréaliste.
Ou alors, en tout cas, même, pouvoir faire rentrer Gonçalo Ramos.
Voilà, même si,
quand à la 60e, il commence à faire son premier changement offensif, que ça ne devienne pas nouvelle fois Randal Kolo Muani qui rentre à la place de Gonçalo Ramos.
Si à 0-0, il faudra rentrer Ramos.
Je vous relance, Bernard, parce que votre question sur le milieu de terrain était liée au choix du numéro 9. Vous avez abattu votre carte Gonçalo Ramos. On revient juste un peu au milieu de terrain avec vous. Vous aurez peut-être souhaité que Ruiz ne joue pas et que c'est Kang In-Li qui joue. Mmh. Je vous ai bien compris ou pas ?
Moi aussi.
Oui, après, et pourquoi donc ?
Après, encore une fois, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je ne suis pas aux entraînements non plus. Mmh. Donc ça dépend beaucoup aussi de l'état l'état de forme de l'un et de l'autre. Parce que moi, j'ai dit Danilo au coup d'envoi. Parce que sur les états de forme et la prestation qu'il a eu avant. Après, je rejoins Yvan sur le profil de joueur. Effectivement, ça semble être le plus adapté. Mais Lille, il a cette capacité quand même de créer quelque chose sur des accélérations, sur des passes.
Plus dynamique que Ruiz.
Il a ce truc là où
c'est difficile de l'être moins. Hein,
il peut te déstabiliser un bloc. Il peut te trouver une solution de passe, peut-être plus façon plus surprenante, plus inattendue que.
Il peut aussi marquer des buts lui-même parce que c'est quand même quelqu'un qui marque des buts.
Il faut gagner. Il peut amener plus de diversité, je trouve.
Giovanni,
mais c'est encore une question d'équilibre.
Moi, je ne comprends pas. Je trouve que la vie est quand même plus simple quand tu joues avec un véritable neuf. À Haaland, on peut dire tout ce qu'il veut, tout ce qu'on veut. Il n'a pas été très bon en Ligue des Champions. mais quand il est là, les deux centraux, ils ne sortent pas sur les milieux de terrain pour les empêcher de frapper. C'est un danger. Et Ramos peut aussi peut-être, en étant là, faire un effort et gêner la première relance de Hummels, qui a fait ce qu'il a voulu au match aller, touchant 70 ballons et étant la première lampe de rancement. Si vous laissez Hummels se jouer tranquille.
C'est quand même incroyable de pas mettre Ramos et Mbappé si on dit qu'il est meilleur à gauche, ce qui est
autant mettre le meilleur joueur de
si c'est l'un des meilleurs joueurs du monde comme on le dit, et sous prétexte. Il faut qu'il défende aussi, quoi. Je veux dire, il faut qu'il fasse ses efforts. Enfin, ce que je comprends pas, c'est que bon, Luis Enrique a essayé de le piquer. Il a dit encore en conférence de presse là.
On l'a d'ailleurs. Même les stars mondiales doivent défendre.
Même les stars mondiales doivent. C'est pas innocent. Parce que les stars mondiales, il en a pas 10 000 quand même sur le marché, quoi. C'était pour Mbappé. Donc, je comprends pas.
Il l'a fait retour
si Mbappé.
Bien sûr.
Mais cela dit, Mbappé. À gauche, tu me dis à gauche. Mais contre Newcastle, devant un bloc bas, il n'a pas vu le ballon, et c'est la rentrée de Barcola qui a fait la différence, et là, il était passé avant-centre, et à l'aller contre Barcelone, il était à gauche, et il ne s'en est pas sorti. Donc peut-être que Luis Enrique se dit aussi, contrairement à ce que j'entends de la presse en général, où à gauche, c'est fantastique aussi, le truc, tu vois, mais d'un autre côté, tu dois marquer, et tu penses que Dortmund va jouer relativement bas. Ils l'avaient fait, ils vont jouer bas. Et après,
ils peuvent même jouer à 3 derrière. Là. Ils peuvent même jouer ce qu'ils avaient fait à l'aller.
Mais ils vont jouer bas. Il faudra un peu de monde dans la surface de réparation. Alors c'est vrai que tu as des ailiers qui ne s'entrent pas beaucoup d'une manière générale. Dembélé Mbappé, ils ne s'entrent pas beaucoup. Mais au moins, quand à droite, tu vois, tu as Dembélé Hakimi, ça marche quand même. Il y a des possibilités de centre et tout. Si tu en as deux, parce que Mbappé, il est fort pour ça, il rentre, il est un petit peu en embuscade au 18 ou des choses comme ça. Et si tu as Ramos en plus, ça ne serait pas du luxe.
Bah non.
Parce que sinon, si tu fais 23
centres... Ça veut dire que tu sors aussi du 11 de départ Barcola. Et Barcola, même s'il n'a pas été bon match aller, je veux dire, c'est quand même un joueur qui a déstabilisé
à Barcelone, il a fait la différence.
Ouais. Mais, tu peux le faire jouer plus bas.
Mais Barcola, qui entre en jeu, quand il est rentré contre Barcelone au Parc, quand il est rentré contre Newcastle.
Là, Ramos aussi, quand il rentre, il est bon.
Le feu.
Mais Giovanni,
à un moment,
il faut les faire rentrer.
Giovanni, j'ai une question, une dernière question.
Elle est bonne.
Non, non, mais.
Et que Mbappé défende un peu.
On parle de la ligne d'attaque, donc Barcola, Mbappé et Dembélé. Quid de Marco Asensio? Est-ce que là encore, Luis Enrique a une réflexion sur son espagnol?
Il adore l'espagnol, pour le coup, Marco Asensio. Moi, je pense que si jamais il débute, ça pourrait être une énorme surprise. Mais ouais, il aime tellement ce joueur-là que ce n'est pas aussi inimaginable de penser qu'il peut débuter plus bas, parce que pour le coup, je crois que c'est Bernard qui parlait du milieu de terrain avec le profil de Kanguni dans la création, etc., parce qu'il va vouloir énormément de possession, jouer très haut, aller chercher très haut sur le pressing. C'est pas non plus inenvisageable qu'il l'incorpore dans le cœur du jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'on nous fait le coup à chaque fois sur les retours, sur les mises en place, sur les retours qu'on a à l'entraînement. Avant les matchs importants, il y a toujours le nom de Marco Asensio qui circule en option, parce que c'est vraiment un joueur qu'apprécie Luis Enrique à différents postes. C'est pas seulement en faux numéro 9, c'est aussi en faux numéro 10 dans le milieu de terrain. Donc voilà. Mais comme d'habitude, il y a beaucoup d'incertitudes avec Luis Enrique. Mais il ne faut pas exclure Marco Asensio, c'est une certitude.
Bonne nuit, Giovanni.
Et merci, Giovanni. Merci, tu peux démonter ton faux décor derrière. Hein, et retourner dans ton château. Tu ne l'as fait pas, nous, celle-là. Hein.
Dans son F12.
Merci beaucoup.
Son petit gilet sans manche, magnifique.
En tout cas, les amis, la tendance donnée par Giovanni Castaldi, c'est qu'il n'y a pas de changement.
Pas de tendance.
Ce
qui est fou, c'est que tout le monde voudrait faire attaquer Ramos, que Ruiz ne jouait pas, que ce soit Kanguini ou Asensio, et qu'il y a des vrais changements. Et au final, il va jouer comme il veut jouer lui.
Heureusement d'ailleurs.
Non, mais il faut avoir quelques
mots. Mais qui ne semble pas être pour nous tous la bonne formule.
Non, mais après, bon. C'est pour ça qu'il ne nous respecte pas beaucoup. Hein.
Parce que sur le match aller, pour une fois, Luis Enrique, il a fait l'équipe que tout le monde attendait, que tout le monde souhaitait.
Oui. Et il a perdu.
Donc, il s'était dégagé une équipe type. Et aujourd'hui, il peut lui accorder le fait de peut-être douter un peu par rapport à ce qu'il a vu à l'aller.
L'espagnol, sans vrai numéro 9.
Bon, Didier, c'est terminé. C'était pas mal, Etienne, à gauche, non? Vous trouvez comment?
Couloir.
C'est un faux pied. Non, mais il est mieux à la place de Bernard ou pas?
Il est plus rapide.
Ah, il est plus rapide?
Mais Bernard a plus de technique. Ouais. C'est un romancier, Bernard.
Vous avez sucré le quiz, là.
Ouais.
Donc, il faut que je revienne demain.
Ah oui, exactement. Il y a quand même beaucoup de gens ici qui viennent à l'émission pour le quiz.
Exactement. Demain, à partir de 16h10, vous le voyez, c'est un spécial Dortmund, Paris Saint-Germain, Dortmund. Nous, on prendra dès la pause pour l'équipe de la mi-temps. On vous souhaite évidemment une belle nuit. Et puis, voilà, dormez bien, parce que demain, la journée va être historique. Allez, on vous embrasse et on vous dit à demain. Ciao, bonne nuit.